Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie. Programme national à Paris sur 95 MHz 6, à Caen sur 106, à Chartres sur 104.5, à Cherbourg sur 87.8, au Havre sur 101.1, au Mans sur 98.8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech avec l'assistance de Victoria, diffusé en direct mercredi 3 janvier 2001 de 18 à 21h, en différé jeudi 4 janvier dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Francky. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libre, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85, par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Belle musique, il faudra me dire ce que c'est. Je vais acheter le disque. Amis de la Résistance, bonsoir et bonne année.
Bonne année.
Bon siècle.
À tous.
Bon millénaire.
Bof.
Bonne année, bonne santé.
Le paradis. Et le paradis à la fin de vos jours.
Voilà, elle est contente, Victoria.
Oui,
elle a pu placer son petit couplet.
Il me faut peu de choses, moi, pour me contenter.
Un peu désuet, peut-être.
Mais non, mais non. Toujours d'actualité.
Et moi, j'en viens du paradis, là.
Ben, c'est très bien.
Ah oui, j'étais dans un
morceau. Un avant-goût, vous avez eu.
Oui, un petit morceau de paradis.
Et en plus, vous avez eu beau temps, c'est pas juste.
Je ne dirais pas où c'est, parce que c'est...
Tout le monde irait.
C'est tellement petit, bref.
Ça ferait le métro aux heures d'affluence.
Ça serait... Il y aurait trop de monde. Mais vraiment, c'est un endroit où il faut aller. Mm-hmm. C'est une pure merveille.
C'est très, très joli.
Ah oui.
Moi, je l'ai fait une fois.
Je ne sais même pas pourquoi je suis revenu. Si, je sais pourquoi je suis revenu, parce que ma femme voulait absolument qu'on rentre pour faire le journal. Le libre journal,
c'est
par la radio, le libre journal imprimé sur du papier écrit.
C'est une femme d'ordre, heureusement qu'elle est là.
Ah oui, ça comme vous dites, autrement, où serais-je? Je serais probablement au coiffeur du cœur. Vous avez vu que Coluche avait créé les restaurants du cœur.
Mm-hmm.
Et alors maintenant les restaurants du cœur, ce sont adjoints des coiffeurs qui font les coiffeurs du cœur.
Coiffeurs du cœur.
Ouais. Ça, c'est que ça vient comme un cheveu sur la soupe, bien entendu. Non, mais c'est vrai.
Je vous regarde avec horreur vos mèches trop belles. Ouais, je me dis que vous, le coiffeur,
moi,
n'a pas fait
plus,
son office.
Je ne vais plus au coiffeur. Non. Vous pouvez téléphoner maintenant. À partir de maintenant, vous pouvez téléphoner. Et donc, alors, comme je disais, j'ai préparé le libre journal de la France courtoise.
C'est
très,
très
beau numéro. Il y a un article sur Fatima. Tous les 10 jours maintenant.
Ah, tous les 10 jours sur Fatima.
Ouais. Très mais bien. C'est remarquable. Ouais. Là, il y a un grand papier de Pierre Darnac. Grand papier, vraiment. Alors là, je dois dire que je suis très fier de publier ça. Et puis, un autre article superbe sur le CNRS. C'est le Centre National de la Recherche Scientifique. J'avais un ami dans le
à
temps qui disait c'est un endroit où il y a beaucoup de chercheurs, mais il n'y a pas beaucoup de trouveurs. Vous l'avez connu, cet ami, je crois.
Eh oui, eh ouais. Oui.
Et alors donc, non, pas à propos de Fatima, elle mélange tout, la pauvre enfant, c'est dramatique, hein, cette année. Là,
j'étais très inquiète.
Non, non, alors donc, le Centre National de la Recherche...
Je pensais qu'il avait écrit sur Fatima.
Non. Ah non, il aurait pu, d'ailleurs, le CNRS. Ils viennent de virer, d'ailleurs, un de leurs chercheurs, un des meilleurs spécialistes français du Cambodge.
Qu'est-ce qu'il avait fait?
Rien de mal. Rien dans le cadre de ses fonctions, mais il s'appelle Serge Thion. Et il est révisionniste. C'est un spécialiste du Cambodge, mais il est accessoirement, à titre privé, il est révisionniste. Alors il a été viré. Parce qu'on considère que comme il est révisionniste pour des affaires qui se sont passées il y a 50 ans en Europe, et voire plus, il n'est pas capable de travailler sérieusement sur les affaires qui se passent aujourd'hui au Cambodge. C'est intéressant comme technique, comme mode de raisonnement.
Ouais. J'en suis bien.
C'est-à-dire qu'il y avait une époque dans le monde où, si on n'était pas... donnons-nous des verges à nous-mêmes. Il y a une époque où, si on n'était pas catholique, il y avait des emplois qu'on ne pouvait pas occuper. Par exemple, curé. Vous ne pouvez pas être curé si vous n'étiez pas catholique. Maintenant, même il vaut mieux éviter d'être catholique pour être curé, parce que...
Même parrain et marraine,
c'est bon. Enfin, parrain et marraine, c'est quand même moins directement utile. Mais curé, aujourd'hui, si vous êtes catholique, vous avez des gros problèmes avec la hiérarchie. Et donc, ce qu'on vous demande, c'est pas tellement d'être catholique, c'est d'être anti-révisionniste. Il faut pas être, c'est très mal d'être révisionniste. D'abord c'est mal, voilà, c'est tout, c'est comme ça. C'est mal. C'est comme pas croire en Dieu. C'est mal. Enfin, c'était mal. Maintenant c'est bien. Si, c'est bien de pas croire en Dieu. Aujourd'hui, si vous croyez en Dieu, vous êtes un demeuré.
Votre discours va trop vite pour moi, je suis un peu perdu.
Donc voilà. Alors aujourd'hui, Serge Thion, qui est un grand spécialiste du Cambodge, il se retrouve à la porte, sans indemnité, sans préavis, et il a appris son licenciement par la presse. Ce qui prouve que les journaux servent encore à quelque chose. Mais ça, c'est pas de ça qu'on parle dans l'enquête sur la CNRS, parce que c'est quelqu'un qui connaît bien le CNRS de l'intérieur, qui nous a raconté deux ou trois histoires sur le fonctionnement. Et par exemple, là...
Vous racontez tout, alors, dans le Libre Journal?
On raconte tout dans le Libre Journal, voilà. Et notamment, comment une équipe de 4 chercheurs, ça c'est absolument authentique, 4 chercheurs, qui a été payé pendant 6 ans pour une enquête sociologique. Et je vous donne en 100 000 le sujet de cette enquête. Même si vous cherchiez jusqu'à la fin des temps, jusqu'à l'usure de l'Himalaya touché tous les 1000 ans par l'aile d'une blanche colombe, vous ne trouveriez pas. Alors, je vais vous le dire tout de suite. Pendant 6 ans, 4 personnes payées à plein temps par le CNRS ont enquêté sur la pratique du skateboard à Saint-Quentin en Yvelines. Non, c'est vrai, hein. Je raconte pas de bêtises. Et ils en ont tiré un film de 55 minutes, c'est-à-dire pas tout à fait 10 minutes par an. Hein. Même Steven Spielberg, il fait mieux.
C'est un concentré d'études.
Alors c'est le film le plus cher du monde probablement, parce que 6 ans, 4 chercheurs, en admettant qu'ils soient payés, mettons 15 000 francs par mois, ça revient à 30 000 par mois, ça fait 120 000 francs par mois, ça fait 1,4 million par an. C'est pour 55 minutes, 1,4 million multiplié par 6, ça doit faire quelque chose comme 8 millions et les poussières, près de 9 millions de francs. Bon, un film que personne n'a vu, bien entendu.
Parce que tout le monde va voir.
Il n'est pas voyable. Donc tout ça est raconté dans le Libre Journal, que vous pouvez acquérir pour la modique somme de 30 francs, voire même 700 francs par an si vous voulez vous abonner. Ça s'appelle
la
réclame, ce que je suis en train de
dire. D'autant plus que vous faites vous donnez la possibilité de faire en plusieurs versements à l'abonnement.
Absolument. Et l'adresse, c'est... Vous venez de l'adresse ?
4.
Elle est bien.
Place Franz Liszt.
Liszt.
Je vous dis à 75 010
Paris. L-I-S-Z-T.
Très bien.
L-I-S-Z-T. C'est logique, en plus.
Mais oui.
Il y a une logique, également. Et donc, c'est un bon journal, oui. Mais, je veux dire, 700 francs par an, pour arriver à payer les cautions que M. Mitterrand ne peut pas payer...
C'est un peu juste.
Moi, je dois dire, alors là, cette histoire, je trouve ça... mais ça me brise le cœur, littéralement. Vous pensez que Mitterrand, il a été président pendant 15 ans. Et avant, il était dans la politique depuis le début des années 50, même la fin des années 40. Et tout le monde sait, c'est écrit, tout le monde le sait, il s'en est foutu plein les fouilles pendant donc à peu près un demi-siècle.
L'argent qui tue, l'argent qui corrompt.
Il s'est littéralement bourré de fric par tous les moyens. Et voilà, il meurt. Et quoi, il y a combien de temps qu'il est mort? 3 ans. En 3 ans après, son fils a même pas...
95, 5.
Ça fait 5 ans déjà?
Ah non, je ne sais plus, je mélange tout.
Enfin, en tout cas, il est mort, ça en est sûr.
Oui.
Bon, d'accord. Donc il meurt, et quelques temps plus tard, ses enfants n'ont même pas les moyens de sortir 5 petites briques pour faire sortir le frangin de Trian.
C'est beaucoup, 5 millions.
Mais enfin, vous rigolez, 5 millions, qu'est-ce que c'est 5 millions? c'est le prix d'une bonne voiture. Une Ferrari, ça vaut ça, non? Je sais pas, j'ai fait longtemps
j'ai l'impression de parler en
que j'ai pas acheté de Ferrari. Donc, alors, j'ai trouvé une solution. Monsieur Mitterrand, comment il s'appelle? Jean-Christophe.
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 Comme le,
voilà. Comme le...
Héros de...
Le héros de la série de romans de... C'est un trou. Oh là, elle m'a piégé.
Romain Roland.
Oh là là. J'allais dire Romain Marie. Je ne savais pas que Romain Marie... Ben, non, mais vous savez, par surprise, comme ça, on peut être... Puis je n'ai pas une culture universitaire, moi. Je ne suis pas un universitaire. Je ne suis qu'un peu... J'ai même pas le bac. Alors donc, j'ai trouvé la solution pour Jean-Christophe. Et en plus, c'est idiot parce que son père l'a appelé comme ça puisque c'était un admirateur de Romain Roland. Grand pacifiste, vous le saviez,
ça ? Le pacifisme, c'est ça, avant tout.
Donc, si j'étais lui, je demanderais à...
Enlevez-moi ces bombes des appareils qui étaient au Bourget, des bombardiers qui étaient au Bourget.
Voilà, c'était...
Le jour du salon.
Alors là, il y a un... pendant que j'étais au paradis, là, pendant 15 jours, j'ai... pour garder le contact avec la Terre, j'ai lu, entre autres, 3 bouquins. Un bouquin du dénommé Collet, qui était le patron de la Française des Jeux, qui explique dans son livre, c'est à lire, hein, si vous le trouvez dans une poubelle, n'hésitez pas à le ramasser, ne l'achetez pas, parce qu'il faut quand même pas charrier. Moi, je l'ai trouvé effectivement, pas dans une poubelle, mais dans des petits coins. Donc, je l'ai lu. Et donc, c'est monsieur qui était le patron de la Française des Jeux, il explique dans son livre que c'est lui qui a fait l'élection de Mitterrand. C'est lui qui a tout trouvé. C'est lui qui lui a présenté tous les gens et tout ça. Et il raconte, par exemple, que... L'histoire de l'exposition, la vente d'armes du Bourget, enfin plus exactement le salon de l'aviation du Bourget, c'est quelqu'un qui a fait retirer les armes avant la visite de Mitterrand pour le piéger. C'est pas Mitterrand qui a fait ça, qui dit Collet.
Ah ben l'histoire dit qu'il est arrivé, qu'il était fou, furieux,
simplement, voilà.
Donc c'était pas vrai.
Eh ben je sais pas, c'est Collet qui dit que c'est pas vrai. Maintenant il s'agit de savoir, il y a quelqu'un qui ment dans cette histoire. Il s'agit de savoir qui. Mm-hmm. C'est tout ce qu'on peut dire. Bon. Et quand on lit le bouquin de Collet et le reste, on a tendance à avoir son idée sur la question. J'ai lu un deuxième livre qui est un livre du chauffeur. Le chauffeur de Mitterrand a écrit ses mémoires. Ça, je vous garantis que ça vaut le voyage. Ça vaut le voyage. C'est pareil. Là, vous le trouvez pas dans une poubelle, mais dans les latrines au fond du jardin, vous, en cherchant bien, à mon avis, c'est sa place normale, et on découvre de quel genre de personnage Mitterrand était entouré jusque dans les gens qui le servaient le plus enfin de la façon la plus anodine ou la plus ancillaire. Voilà, c'est le mot que je cherchais, c'est joli, ça. Et par exemple, on apprend que ce type, avant d'être chauffeur de Mitterrand, il était placier en assurance. Et comme il plaçait pas beaucoup d'assurance, il allait dans un bistrot de la rue Saint-Denis, taper le carton avec des macros du coin. Et il dit qu'à ce moment-là, heureusement qu'il a trouvé du travail chez Mitterrand, parce qu'autrement il aurait peut-être mal tourné. C'est texto, c'est lui qui le raconte. Donc c'est aussi un livre tout à fait intéressant. Il raconte aussi comment un jour une de ses maîtresses l'a chassé de son lit en pleine nuit parce que son remplaçant arrivait. Son remplaçant c'était Mitterrand. Donc c'est vraiment du beau monde, puis des témoignages édifiants, vous voyez. Et puis le troisième livre que j'ai lu, c'est les mémoires de Monsieur Alexis, qui était le chef du protocole de Gaulle à l'Élysée.
Vous avez fait la totale.
À la totale. Alors là, ça aussi, c'est intéressant. Enfin, donc, je ne me suis pas ennuyé une seule seconde. Et je reviens à l'affaire Mitterrand. Car ce pauvre Jean-Christophe, qui n'a pas été capable de gratter 3 sous sur la succession de papa, j'ai la solution pour lui. Il faut qu'il téléphone à Madame Mondoloni. Alors, vous allez me dire, qui est Madame Mondoloni? Eh bien, Madame Mondoloni, c'est une Gabonaise, comme son nom ne l'indique pas. Et pour une fois, si on l'appelle au téléphone, il y aura une Gabonaise au numéro qu'on aura demandé. Et Madame Mondoloni, c'est une dame dont Philippe de Villiers, c'est pas moi qui le dis, c'est Philippe de Villiers. Pourquoi vous riez quand je dis Philippe de Villiers?
Oh, parce que je l'ai entendu sous la voix de Laurent Gérard ce matin.
Ah oui. Alors Philippe de Villiers dit, Madame Mondoloni, c'est une militante du RPF qui vit au Gabon. Vous voyez? Ah, il y a des militants RPF au Gabon. Je sais pas à quoi ça sert, mais si, on va voir à quoi ça sert d'ailleurs. Et alors cette dame, quand le RPF s'est créé, le RPF c'était le Rassemblement pour la France. Et quand ça s'est créé, elle a envoyé 2 chèques à Pasqua, enfin au RPF. un chèque de, en fait, deux chèques d'un montant total de 7,5 millions. 7 500 000 francs.
C'est bien.
Bon. Ça a payé quand même pratiquement un tiers des dépenses de campagne du RPF pour son rendement. Et puis ensuite, ils ont eu encore besoin d'argent. Et Mme Mandoloni, elle s'est refendue d'un chèque de 4 millions de francs à Pasqua, enfin au RPF. Alors, même les gens du Conseil constitutionnel, ils ont trouvé que c'était quand même bizarre. Alors, ils ont donc enquêté sur cette madame, l'origine de cet argent. Et cet argent avait été versé par chèque sur une banque monégasque. Vous voyez comme ça se trouve. Et la banque monégasque a dit, ben quoi, Madame Mandoloni, ben on la connaît très bien. C'est l'argent des SICAV. Elle a vendu ses SICAV. Madame Mandoloni a vendu 1 500 000 balles de SICAV pour faire... pardon, qu'est-ce que je dis ? 15 millions, pratiquement 15 millions, 12 millions de SICAV pour... Qu'est-ce qu'il y a ? SICAV, vous ne savez pas ce que c'est ?
Non, c'est vos
calculs. C'est des actions.
Vos calculs me trouvent.
Oui, en gros, 12 millions. Quoi. 12 millions de SICAV pour payer le RPF. Alors, Villiers dit qu'il a des doutes sur toute cette histoire. Vous voyez qu'il n'est pas si bête qu'on le dit. Les gens de gauche disent que Villiers est bête. Moi, je ne crois pas du tout qu'il est bête. Je crois qu'il est extrêmement intelligent.
C'est parce qu'il a bien arrangé ce matin au micro.
Ah, monsieur Pasqua, je crois. Moi, j'attends avec impatience parce que Pasqua, c'est vraiment quelqu'un que j'aime bien. J'ai toujours eu beaucoup de sympathie pour lui et j'attends vraiment. Alors donc, Mitterrand. Pour en revenir à ça, il faudrait qu'il demande à Madame Mandoloni si elle peut pas faire un petit effort. 5 millions, c'est de la briquette pour Madame Mandoloni.
Oui. Il y a une auditrice qui n'est pas très optimiste qui dit « Le fils Mitterrand ne pourra pas ou ne voudra pas payer les 5 millions, mais il sera reconnu innocent. » Et enfin, il demandera des indemnités.
Voilà ce qu'elle pense. Non, mais cela dit, il faut reconnaître une chose, c'est que cette histoire, c'est une histoire de corne-cul de demander 5 millions de caution. Parce que de deux choses l'une, ou on croit réellement que Mitterrand, s'il sort de prison, va prendre contact avec les gens. Parce que c'est ça, la seule raison. Il y a trois raisons pour lesquelles on peut mettre un homme en prison à titre préventif. Premièrement, on a de bonnes raisons de croire qu'il va recommencer. Dans son cas, ça me paraît quand même assez douteux. Il n'a plus les positions qu'il avait. Il ne peut plus arriver en disant « je suis le fils du président de la République ». Tout le monde sait bien qu'il n'est pas le fils de Chirac. Donc, ça ne marchera pas. Deuxième chose, donc il ne peut pas recommencer. Deuxième chose, qui se barre. Qui s'en sauve. Bon. On va lui faire le coup de Brasillac. S'il se sauve, on prend sa mère et on lui dit « si tu ne reviens pas, on fusille ta mère ». C'est une spécialité de la République française, ça. C'est pas moi qui l'ai inventé. Donc pourquoi il ne le ferait pas avec le fils Mitterrand? Alors là, moi j'espère qu'il ne reviendra pas en plus. Mais bon, supposons. Troisième chose, il prend contact avec ses complices pour leur dire « mangez pas le morceau, je vous protège ». C'est pour ça qu'on l'a gardé en prison, parce que les deux premières hypothèses sont invraisemblables. Donc on le garde pour pas qu'il prenne contact avec ses complices. Ou ses supposés complices, ou ses présumés complices, ou ses prétendus complices, ou ceux dont on dit qu'ils pourraient être prétendument des présumés supposés complices, comme M. Pasqua, qui n'a rien à voir avec cette histoire, M. Jean-Louis Silizer, qui n'a rien à voir, il était en train d'écrire, lui. Je l'ai entendu l'autre jour à la radio, il dit, moi, je ne sais même pas de quoi on parle, j'étais en train d'écrire un livre, quand ça s'est passé. Donc, il écrivait un livre, c'est-à-dire qu'il avait devant lui une feuille de papier et un stylo, et il écrivait... UN, livre, LIVRE, ça lui a pris 3 mois. Voilà. Et l'autre, c'est Monsieur Falcone, et Monsieur Falcone, il est en taule. Donc, si on veut pas que Mitterrand prenne contact avec Falcone, faut plutôt le faire sortir de prison que le maintenir, puisque l'autre y est en prison. Donc, ça ne tient pas debout. Au demeurant, s'il verse 5 millions de francs, il sera encore plus pressé de prendre contact avec ses complices pour arranger le coup. Puisqu'en plus de tout le reste, il y aura 5 millions à récupérer. Donc, c'est pas une bonne solution. Il y a quelque chose qui va pas dans cette histoire. Moi, je me demande si cette histoire de 5 millions, c'est pas juste pour l'embêter. Voilà. Comme il est plus président de la... Enfin, fils du président de la République. Ils veulent l'embêter. Ils se vengent. Voilà. À propos de prison, vous avez vu les émissions du Nouvel An ? Parce que là-bas, où j'étais, il y avait une télévision. Donc, j'ai regardé un petit peu les émissions du Nouvel An. Non. Alors, il y avait des émissions de zapping. Alors, j'ai trouvé ça formidable parce que il y avait notamment une émission de zapping. Vous savez, où on passe des images qui ont été vues comme ça, lors d'émissions diverses et variées. Et notamment, il y a eu toute une série d'images prises à l'issue des matchs de football où les commentateurs sportifs s'expriment entourés par la foule. Vous voyez ? Donc on a le gars en gros plan et puis derrière la foule qui acclame parce que, et là ils avaient retenu qui acclame parce qu'elle est contente de, ou contente ou pas contente du résultat. Et là le réalisateur de l'émission avait retenu toutes les images réalisées au cours, à l'issue de matchs particulièrement agités et où les présentateurs ont été en quelque sorte malmenés par la foule. Ils étaient, on leur sautait dessus, on les embrassait, on les faisait basculer de leur chaise, enfin des choses comme ça. Ça a duré, je ne sais pas, une dizaine de minutes. Il doit y avoir une trentaine de... Et en regardant ces images, j'ai compris vraiment, c'est vrai ce qu'on nous dit. Hein. La France a changé. Hein.
Ah bon ?
Ah oui. Là, je peux vous dire, la France, le type français a changé. Hein. Et curieusement, ça prouve aussi une autre chose qu'on nous dit aujourd'hui, parce que moi je crois toujours que la presse est menteuse. On nous dit le climat se réchauffe. Vous avez entendu ça?
Ça se dit beaucoup, oui.
Eh bien ça se vérifie. Ah oui, je peux vous le dire, les Français sont de plus en plus bronzés. Hein. Là on sent que vraiment qu'on est dans un pays qui est de plus en plus chaud. Hein. Les gens, il n'y a pratiquement plus ces espèces d'endives, vous savez qu'il y avait dans le temps des teintes de lavabo et tout. Non, vous regardez la foule. Que ce soit pour ça, que ce soit pour les foules du réveillon, quand il y a eu la nuit du réveillon où la SNCF a vendu des, ça, on peut en parler aussi de la belle réussite de du billet à 100 balles SNCF. Vous avez vu ça? La SNCF a donné pour 100 francs un billet aller-retour pour n'importe où en France, à condition de l'utiliser avant minuit, avant midi, etc. Le résultat, c'est que tous les gens qui avaient les pauvres couillons de Français moyens, teint d'endive et couleur de lavabo, qui eux, bêtement, avaient payé leur billet au prix fort, ils ont pris au minimum 4 ou 5 heures de retard, parce que les trains ne pouvaient pas partir. Ils étaient envahis, littéralement envahis, par des milliers de mecs qui avaient payé leur billet 100 francs, ou plus probablement d'ailleurs, qui n'avaient pas du tout de billet. Et alors, les caméras de télévision sont allées sur les gares, notamment à Marseille, à Paris, enfin dans les gares, pour filmer les gens qui protestaient. Et bien encore une fois, même dans les gares parisiennes, le climat a changé. Il y a une chaleur, il doit y avoir un soleil terrible parce que les gens attrapent des coups de soleil, ils bronzent beaucoup. Hein. En plein mois de décembre, c'est assez surprenant.
Hein. C'est à cause des 35 heures.
C'est peut-être les 35 heures, ça leur donne le temps d'aller au soleil.
Voilà.
Et ils bronzent beaucoup. Donc, d'ailleurs, une autre raison pour laquelle le climat change et la température monte, c'est qu'on brûle quand même pas mal de voitures. D'ailleurs, vu à Strasbourg, quand même, il y a pour la nuit.
Je crois qu'ils ont battu des records. Hein,
oui. Et alors, curieusement, je vais vous donner un bon truc. Si vous aimez bronzer, je sais pas, Marie-Athélie, vous aimez bronzer ? Je reçois Marie-Athélie.
Pas particulièrement.
Ah, non. Bah, alors, donc, c'est raté. Enfin, si vous étiez une jeune femme moderne, branchée et tout, et que vous vouliez bronzer, c'est pas la peine d'acheter une lampe à bronzer. Vous allez dans la rue, vous foutez le feu à une voiture, et ça bronze rapidement. Quand on voit à la télévision les gens qui filment les voitures qui brûlent et les jeunes gens qui tournent, qui dansent autour des voitures en feu, on voit qu'ils ont bronzé tout de suite. C'est très, très bien.
J'habite dans une cité HLM où les voitures
bronzent aussi beaucoup.
Les voitures brûlent régulièrement, mais j'ai pas bronzé.
Pas vous?
Non.
Mais parce que vous sortez pas. Si vous sortiez, regardez les jeunes qui sortent, vous verrez, ils bronzent. Je le dis. En tout cas, ils bronzeraient. Il y a des voitures qu'ils n'arriveront pas à brûler, c'est les voitures des ministres. Vous avez vu l'enquête, vous avez entendu parler de l'enquête d'autofit.
Ils ne peuvent pas les attraper, là, ils vont trop vite.
Alors, j'ai entendu Guesso. Mais Guesso. C'est-à-dire, le plus gros reproche qu'on peut faire à Jospin, moi je m'en fous, je ne suis pas républicain, je ne suis pas démocrate, donc ce que fait Jospin ne m'intéresse pas beaucoup, mais quand même, parmi tous les socialistes, il doit y avoir au moins une quarantaine de personnes pourvues d'un cerveau. Et qui sont capables de le faire fonctionner. Il faut qu'il aille chercher un Guesso. Guesso, c'est un anencéphale. C'est un anencéphale, je vous le dis. Vous savez ce que c'est un anencéphale?
Non, mais vous allez me le dire.
Vous devriez le savoir, vous qui êtes professeur.
J'ai
institutrice. Oui, mais vous êtes institutrice d'avant-guerre, alors. C'est plus cultivé que les professeurs.
C'était au-dessus de mes compétences.
Avant-guerre du golf, hein, je veux dire, bien sûr. Eh bien, un anencéphale, c'est quelqu'un qui n'a pas d'encéphale. A, préfixe privatif. N pour faire la liaison, et encéphale, le cerveau, en grec. N-Képhalé.
Très bien.
Ça vous va? Voilà, c'est pour quand même vous dire.
Oya Képhalé, Cayenne Képhalos, ou Kékei.
Ou Kékei. Ou qu'est la bonne Pauline à la gare à Passy. Voilà. Bon, on a fait l'âge de notre
on est bien,
science. Alors donc, cet anencéphale a été pris. Les gens d'Autoplus ont une idée géniale, je dois dire. Ils ont suivi donc des ministres dans leur voiture officielle pendant quelques jours. Et ils ont suivi Guesso en 10 minutes ou 20 minutes, je sais pas quoi. Son chauffeur, c'est-à-dire lui, puisque le chauffeur n'est jamais que l'extension du patron du véhicule, il a perdu 17 points au permis de conduire. 17.
Ah oui, c'est beau ça.
Feu rouge grillé, ligne blanche, etc. Alors on a dit à Guesso quand même qu'il vient nous pomper l'air chaque veille de réveillon, enfin chaque veille de fête, pour nous dire qu'il faut conduire prudemment parce que c'est un scandale et qu'il y aura des mesures qui seront prises et des représailles et qu'on va mettre 274 millions de policiers sur les routes et que la première infraction c'est la peine de mort, etc. Et lui, en 10 minutes, 17 infractions graves, mortelles au code de la route. Et quand les journalistes lui disent, je crois chez France Inter ou Europe, lui disent, vous trouvez pas que c'est un peu fort quand même, il dit, oui mais moi c'est parce que je suis pressé. Non mais attendez, mais c'est pas vrai. Et c'est ministre, ça? Mais oui, il les recrute, les ministres. C'est dans des maisons pour...
C'est spécial. Hein, on les élève.
Ouais. Parce que...
Tiens, François Mitterrand est décédé en 1996, au cas où...
Ah, bah ça, c'est une bonne nouvelle, au moins.
Voilà, voilà.
Bon. Donc... qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Ben voilà, c'était juste pour dire que Guesso n'a plus son permis de conduire, son chauffeur non plus.
Et d'ailleurs,
vous savez ce qu'il y a? Je parlais tout à l'heure du livre du chauffeur de Mitterrand. La dernière phrase du livre est extraordinaire parce que elle montre bien. Ce livre est quand même intéressant. Il est nulissime. Il est faux, mensonger, il est tout ce qu'on veut. Mais il est intéressant parce qu'il montre la crapulerie intrinsèque de l'environnement mitterrandien. Et la crapulerie à tous les points de vue. Et la dernière phrase du livre, c'est la suivante. Je cite de mémoire. « Ah, au fait, il faut que je vous fasse une confidence. Moi qui ai été pendant, je sais pas combien, 20 ans, 15 ans, le chauffeur du président de la République, je n'ai jamais eu le permis de conduire. » Ouais. C'est extraordinaire, ça. Ça, c'est un signe, quand même. Je veux dire, cet homme qui était à la tête des destinées de la France pendant deux septennats, il aimait tellement s'encanailler, il était tellement accoutumé à vivre des gens avec des gens en marge, des gens à la limite, toujours, et à quelle limite, d'ailleurs, eh bien, son chauffeur n'avait pas de permis de conduire. Alors, on peut pas... On peut pas dire qu'ils étaient pas au courant, parce que je sais bien que les flics d'IRG, c'est pas pic de la Mirandole, mais faut quand même pas charrier. Les gars, ils ont dû vérifier une ou deux choses avant de... Eh ben, pas du tout. Ils s'en foutaient. Mais vous vous rendez compte, s'il avait tué quelqu'un dans une course folle à travers Paris,
hein? Des choses qui arrivent.
Voilà. Tout ça pour dire, si Mitterrand se représente, ne votez pas pour lui.
Hein. Si vous
Mais
regardez...
ça peut arriver, parce que les gens de Jalon avaient lancé une campagne pour Pompidou aux dernières élections présidentielles. Il avait eu des voix. Je sais, puisque moi j'ai voté pour lui, au deuxième tour.
Ils avaient défilé aussi. Comment ils défilaient?
Au métro glaciaire.
Au métro glaciaire, c'est ça.
Hiver assassin, verglas complice.
Mitterrand complice.
Mitterrand complice, oui, c'est vrai. Verglas assassin, Mitterrand complice. C'était... Voilà. Et puis, enfin une bonne nouvelle. Comme nous le disent tous les journaux tous les jours, l'insécurité baisse partout. L'insécurité diminue partout. Sauf quand même dans les trains de banlieue et le RER, où elle a augmenté de 14%. Alors, j'ai une explication. Si elle diminue partout, c'est parce que les mecs ont enfin compris que le meilleur endroit pour agresser les pauvres gens, c'est quand même le métro et le RER. C'est beaucoup plus facile. Ils sont là, ils sont pris, ils peuvent pas se sauver. Et c'est plus facile que d'aller les attaquer dans la rue, où on peut faire une mauvaise rencontre. Il y a toujours une voiture de police qui peut passer, avec dedans des policiers qui seront pas très pressés d'aller boire leur pastis, et donc qui vont vouloir faire un crâne ou des choses comme ça. Donc là, le RER et le train, mais Dieu merci, les cerveaux musclés de la SNCF ont trouvé la solution, et du RER ont trouvé la solution. Et alors là, dans une belle coalition, une belle coopération entre les syndicats et le patronat. Les syndicats, pour la SNCF, ils ont trouvé la solution, ils se foutent en grève. Comme ça, comme les trains ne roulent plus, il n'y a plus personne dedans, et là, évidemment, l'insécurité va diminuer. Et pour le RER, monsieur RER, je ne sais pas qui c'est, mais il a eu une idée de génie, il a décidé de rassembler tous les... Mais alors, écoutez, c'est à pas croire. Tous les voyageurs, à partir de, je sais pas, 20h, 21h, vont être rassemblés dans les deux premières voitures.
Comme hein? Ça, au moins.
Bon, ça c'est bien déjà. Mais, on nous dit, les autres voitures seront fermées. Autrement dit, en bonne logique économique, un train qui fait 6 voitures, il y aura 2 voitures avec des passagers, et derrière, 4 voitures vides, bon poids, qui vont être traînés par la motrice à grand prix d'électricité, j'imagine. Ça marche à l'électricité, le RER.
Oui, je pense, oui.
Personne n'a dit, à partir de 9h, on garde que 2 voitures dans les rames. Il suffirait de... Non, si. Ça ne fait pas ça. Ça, c'est beaucoup trop simple. On ferme les voitures. Donc, on se croirait... Vous savez, c'est comme dans les convois du Far West. Mais simplement, ça s'appelle le syndrome du homard. Il vaut mieux avoir un petit homard bien charnu plutôt qu'un gros homard complètement vide. C'est ce que vont se dire les bandes. Quand ils vont voir 2 voitures pleines de passagers, en sachant que les Français, qu'ils soient 50 dans une voiture ou 2, ils sont aussi lâches, ils vont se précipiter sur les voitures bourrées de passagers avec les portefeuilles, les montres, les portables y afférents, et ils vont se goinfrer. Alors qu'avant, ils étaient obligés de se répartir sur 6 voitures, ce qui prenait du temps. Quand ils étaient sortis d'une voiture, ça permettait aux gens quand même de donner l'alarme. Tandis que là, les 2 voitures, ils vont les vider en une station. C'est du nanan. Je ne sais pas si je ne vais pas me reconvertir dans l'agression de vieille dame dans le RER.
Ah.
Si Mme Mandoloni prenait le RER, j'irais peut-être...
Ça vaudrait la peine.
Lui extorquer un chèque.
Alors, quelques petits messages.
Faites
cher
bien.
Serge de Pécatch, si vous regardez le zapping, si vous regardez Canaille Plus.
Ah non, pas du tout. Non. D'abord, j'ai pas Canaille Plus. Cet hiver, là, pendant la Saint-Sylvestre, toutes les stations, toutes les chaînes de télévision ont fait du zappinge. Toutes, absolument toutes. J'ai pas regardé tout le temps. J'ai regardé
une ou deux.
Je suis tombé là-dessus sur 5 minutes. J'ai
en
vu
zappant.
Que les. Non, en allumant la télé, mais ça marchait pas bien. Enfin bref, j'ai vu ça et ça m'a frappé. C'est le bronzage qui m'a frappé, c'est tout. Je comprenais pas pourquoi les gens étaient.
Un auditeur vous dit : je suis bronzé, mais je vous aime bien quand même. Je suis à moitié normand et à moitié antillais, et en plus, je suis royaliste.
À moitié antillais ?
Ouais. Et à moitié normand.
Oh, mais je le connais.
Ah, plus.
Bah, si, forcément.
Pas de roman.
L'antillo-normand royaliste, il ne doit pas y en avoir 14 000.
Peut-être. Puis, alors, un autre vous dit, attention avec les vœux. Hein. Bonne santé, ne pas le souhaiter à Jean-Claude Mitterrand.
Oui, Jean-Christophe,
pardon. Et alors, là, vous avez cité des ouvrages, vous avez raconté des ouvrages et vous n'avez pas donné les titres.
Alors, le bouquin de... Oh, ça va être difficile, ça. Le Collet, le livre de Collet, ça...
Collet, il s'écrit C-O-2-L-E-T ?
C-O-L-E. C'est... Non, je sais plus le titre.
Il ne sait pas, vous demandez...
En tout cas, c'est Collet, ça c'est facile. Le chauffeur de Mitterrand, je ne sais plus comment il s'appelle, mais vous demandez le livre du chauffeur de Mitterrand, ça... mais ne les achetez pas, je n'en suis plus. Allez à votre bibliothèque municipale, ça doit servir à coincer un bureau ou quelque chose. Et puis, Alexis, le livre le plus extraordinairement vide. Sauf une scène qui est extraordinaire, parce qu'elle est racontée avec... il est content de raconter ça, le type. C'est l'ambiance de l'Élysée le soir où le tribunal d'exception a refusé d'infliger la peine de mort au général Salan. Et ce soir-là, sauf erreur de ma part, c'était Ségor qui dînait à l'Élysée, en tout cas un roi athlé africain, et Alexis, qui était donc l'homme qui s'occupait du protocole, raconte comment... C'est textuel. Hein. Après le dîner, chacun se pressait auprès du général pour le consoler. Ils allaient consoler le général parce que le tribunal n'avait pas condamné Salan à mort. ces ordures.
Arrêtez, pousse.
Ah non, mais vraiment.
C'est les étrennes, c'est pas.
Ah non, mais bon, ça n'empêche pas. Malheureusement, le changement de millénaire n'a pas fait disparaître les ordures.
Quelqu'un vous dit, monsieur de Beckett, châtiez votre langage un peu.
Mais j'ai châtié, là, jusqu'à présent. Ordures.
Ben, c'est pour ça, mais là, vous commencez.
C'est châtié.
Vous dérapez. Stop.
C'est châtié, ordures. D'ailleurs, je voudrais bien les châtier plutôt que châtier mon langage. C'est tout.
Et puis alors, j'envoie tous mes voeux à l'auditrice qui aime comme moi la pêche et soie, que je citais tout à l'heure.
Voilà. Citate la pêche et soie. Mm-hmm. Je ne l'entends pas.
À cause de la réplique en grec.
Ah, bien sûr.
Voilà.
Alors, ma chère Marie-Athalie, après ce long pinsomme que je vous ai infligé pour voir si vos nerfs allaient résister.
Elle a résisté, visiblement.
Elle a résisté. Elle est impavide au milieu des tempêtes. Il faut dire que, comme elle nous le disait tout à l'heure, Marie-Athalie vit dans une cité.
Oui, une cité HLM dont on ne parle pas parce qu'elle se trouve à Paris. Alors, on parle beaucoup des cités de banlieue, mais
intramuros.
Parler d'une cité à problème dans Paris, ça se fait pas.
Ça poserait des problèmes.
Dans l'Est parisien, peut-être.
Non, c'est dans le 20e. Enfin, moi, j'y vis très bien, mais on ne fait pas de livraison après 19h30.
C'est déjà miraculeux qu'on en fasse avant.
Non, mais il y a un ami très gentil qui, pour Noël, a décidé de remplir mon frigidaire, parce qu'il y a beaucoup de monde chez moi, et pas toujours quelque chose dans le frigidaire. Donc j'avais une énorme...
C'est un frigidaire, vraiment ? Parce que là, vous êtes en train de lui faire une pub éhontée.
Un réfrigérateur, excusez-moi.
Ah, bah voilà.
Moi non plus, je ne suis pas très cultivée. J'ai eu mon bac, mais une année où ça servait, où c'était carrément nul. Bon, enfin bref. Donc j'attendais une livraison miraculeuse qui est arrivée le lendemain, parce qu'on ne livre pas après 19h30.
Bon, mais téléphone, pas avoir, pas peut-être un coup de tam-tam, ou ils n'auraient pas
pu faire
ça.
Ils m'ont téléphoné à 6h du soir pour me dire « Désolé madame, mais nous ne vous livrerons pas aujourd'hui, parce qu'on ne livre pas après 19h30. »
Il faudra demander à la cavalerie de les accompagner.
Moi, je n'ai aucun problème dans cette cité. Enfin, j'en ai eu beaucoup, et puis j'en ai plus.
Qu'est-ce que vous avez fait ? Vous les avez tapés ?
Non, j'en ai eu beaucoup au début, parce que quand je suis arrivée dans cette cité, je suis une maman, je voyais des gosses, des petits gamins en chaussettes mouillées, à l'abandon, quoi. Alors je m'en occupais un peu, je leur parlais. Et je sais pas pourquoi ils m'ont pris, une assistante sociale ou un objet dangereux, non identifié. J'étais agressée verbalement, physiquement, etc. Bon, j'ai cessé de m'occuper des enfants, et j'ai continué de me faire traiter de tous les noms. Jusqu'à ce qu'une des personnes que j'ai hébergées, parce que j'ai hébergé des gens chez moi, dise qu'il était bien aimé des gosses de la cité. Ah, mais tu la connais celle-là ? Bah oui, elle m'a hébergée un jour où plus personne ne voulait de moi. Alors maintenant, ils sont gentils.
Ah, c'est bien.
Je peux traverser la cité sans manger les pare-balles.
Alors, je vous ai déjà invité, Marie-Athalie, dans cette émission, parce que vous avez écrit un livre qui m'a beaucoup intéressé et énormément touché, et je peux même dire bouleversé d'une certaine manière, parce que c'est un grand beau livre, grand par le contenu, pas par le contenant, parce que en réalité, c'est un livre assez mince et joliment édité, d'ailleurs, avec une jolie petite couverture, enfin, c'est bien fait, élégant. Et dont le contenu est une bombe, c'est vrai, une bombe, on peut dire. Et ça s'appelle, le titre d'ailleurs annonce un peu la couleur, puisque je vais vous demander de le dire vous-même. Ce sera,
Lettre aux Juifs qui se croient persécutés.
Alors, je vous avais invité parce que ça me paraissait un sujet effectivement intéressant. Et puis, j'ai eu envie de vous réinviter pour essayer de dépasser simplement le livre. Je voudrais qu'on...
Oui.
On va parler du livre un petit peu, mais je voudrais qu'on essaye d'aller un peu plus loin. Et alors, la première chose, il faut quand même que vous résumiez peut-être...
L'histoire,
que l'histoire, c'est vraiment une apparence. Ce qui est important, c'est...
Le résumé de l'histoire explique un petit peu le titre. C'est l'histoire d'un homme qui est devenu fou en apprenant ce qui était arrivé à ses ancêtres juifs. Donc il est devenu complètement parano, il s'enferme dans son truc de HLM jusqu'à ce que un personnage fasse irruption dans sa vie et par le dialogue qui est instauré entre notre pauvre paranoïaque et cette apparition, le libère de sa terreur. Alors ensuite, quand il est libéré de sa terreur, ben, il écrit à ses frères juifs qui, comme lui, se croient persécutés. Parce qu'en fait, lui, il croyait qu'il y avait des nazis partout, il sortait pas de chez lui. Et cette petite fée, on va dire, arrive à lui faire comprendre qu'il peut non seulement sortir de chez lui, mais même vivre. Alors ensuite, il est tellement content de s'en être sorti qu'il écrit à ses frères, et il écrit une lettre à ses frères juifs qui se croient persécutés. Alors j'ai eu toutes sortes de réactions, plus ou moins agressives.
Mais de la part de qui alors? Justement, qu'est-ce que... Parce qu'il faut quand même aller un tout petit peu plus loin dans l'histoire.
Oui.
Ce qui va arriver à cet homme, c'est pas seulement qu'il va cesser d'avoir peur.
Oui.
Il va lui arriver un événement énorme, immense, qui aux yeux de certains pourrait apparaître comme la preuve que il était beaucoup moins fou avant qu'après. Hein?
Oui.
Quand même, c'est ça le fond de l'histoire. Alors, est-ce qu'on peut dire, est-ce que vous souhaitez dévoiler le...
Oui, on peut dévoiler, sinon on va tourner autour du pot pendant une heure. Le juif traumatisé se convertit, devient chrétien. Alors, évidemment, ça soulève un énorme problème, parce que les gens m'ont dit, mais enfin, vous... Ah bon, vous pensez qu'Israël doit se convertir, vous pensez ceci, vous pensez cela. Bon, moi, d'abord, je réponds, j'ai raconté une histoire...
Donc ça, c'est un peu une pirouette, parce que quand on raconte une histoire, c'est parce qu'on a, même inconsciemment, on a envie de dire quelque chose.
Bien sûr, j'avais envie de dire quelque chose et je l'ai dit. Alors ensuite, me poser des questions de ce genre, me demander si je suis pour ou pas pour, je suis comme tous les chrétiens, je prie tous les jours pour...
Si seulement tous les chrétiens pouvaient prier tous les jours, les choses iraient probablement un peu moins mal.
Ah oui, peut-être.
Mais alors, justement, il y a une chose qu'il faut écarter dès le début, c'est l'idée qui vient tout de suite à l'esprit quand on lit votre livre, qui est l'idée d'une autobiographie déguisée. Ça n'a strictement rien d'autobiographique.
Ah non, c'est absolument pas une autobiographie. C'est un roman. C'est une fiction.
On peut même dire que c'est le contraire d'une autobiographie, puisque en réalité, d'une certaine manière... Ce qu'est votre personnage, c'est le juste contraire de ce que vous êtes vous.
Mais ce que je suis moi actuellement, peut-être.
Mais même de ce que vous étiez dans votre adolescence, puisque je me souviens quand on avait parlé de ça, moi ça m'avait beaucoup frappé. Vous m'aviez dit que vous avez passé toute votre adolescence en ignorant absolument que vous étiez juive.
Ah oui, j'ignorais totalement.
D'une famille juive, vous ne le saviez pas.
Même quand
tandis
on me disait...
Fille, obsédé par ça, ça vous était totalement étranger.
Ça m'était totalement étranger. J'ai mis bien longtemps à comprendre ce que ça voulait dire être juif. D'ailleurs, j'ai toujours un petit peu du mal à comprendre. Mais enfin bon. Non, je veux dire, par exemple, je m'appelle Marie Attali. Et à l'école, je me faisais insulter. Alors, je comprenais pas pourquoi. Je pensais que c'était un nom italien. Alors, je vais peut-être passer pour une naïve, mais bon. Je pensais que je me disais, bon, on m'a traité de turc, de toutes sortes de noms. Et puis ensuite, quand j'étais adulte, on m'a traité de sale juif dans la rue, on m'a agressé dans la rue. Je me disais, ça doit être mes cheveux bruns, mes yeux noirs. Et j'ai compris très tard, il a fallu vraiment que...
Mais ce que vous venez de dire là, ça vous est vraiment arrivé? Il y a vraiment des gens qui vous ont agressé dans la rue en disant sale juif?
Ah bah oui, il y a un type qui a essayé de me renverser en voiture en disant, tiens, ça me ferait une petite juive de moins. Mais ça, non, c'est ma vie quotidienne, vous savez. Oh bah non, j'ai toujours habité dans les quartiers genre Belleville, Ménilmontant.
Non, mais je l'ai en France,
à
Paris.
Ah oui, à Paris. Oh, ouais. Puis une fois, il y en a une qui a fait « Hi Hitler » et puis elle m'a donné un grand coup de main dans la nuque. Et c'était terrible parce que ça vous assomme. Et c'était le jour où j'allais à un entretien d'embauche. Et je suis arrivée devant la personne qui allait m'embaucher, mais complètement sonnée. Elle m'a embauchée quand même, c'était pour rentrer dans l'administration.
Ah bon, oui, ça, c'était pas gênant.
Elle a dû me trouver très bien, à point.
Elle a dit oui, « on n'aura pas de problème avec elle, elle dort, elle dort déjà ». Donc, pour en revenir à votre livre, il ne s'agit pas d'une autobiographie.
Oui.
Il s'agit d'un, vous insistez beaucoup là-dessus. Il s'agit d'un roman.
D'un roman.
Qui est l'histoire de Monsieur Cohen.
Oui.
Obsédé par le destin tragique du peuple auquel il appartient.
Oui.
Terrorisé à l'idée que ce destin tragique est éternel et qu'il non seulement qu'il va se reproduire, mais qu'il se reproduit quotidiennement aujourd'hui.
Oui.
Et qui est
alors, j'ai rencontré,
en quelque sorte guéri de cette folie. ouais. ce délire par un petit personnage qui intervient dans sa vie, dans des conditions ouais. d'ailleurs qui ressemblent un peu à ce que vous nous racontez. Parce qu'il y a quand même une dimension autobiographique, au moins dans certaines scènes, parce que j'imagine que cette scène que vous faites vivre à votre personnage, oui. elle ressemble beaucoup à la scène que vous évoquiez tout à l'heure, à propos de ces enfants en chaussettes mouillées qui, oui. que vous receviez chez
Il y
vous.
A des scènes qui me sont arrivées, effectivement, les scènes que je raconte dans la cité HLM. Il y a des scènes qui sont arrivées à des gens que je connais, je pense en particulier à une voisine du dessus que j'avais à un moment et qui fermait ses volets, qui la nuit pousse les meubles contre les portes, barricade ses fenêtres, parce qu'elle a peur que ça recommence. Alors bon, il y a plusieurs personnages ah oui. existants que j'ai mis dans... J'ai un peu mélangé.
Mais alors, vous nous disiez, quand votre livre est sorti, qu'on a commencé à en parler... D'abord...
On n'a pas commencé à en parler. Il n'y a que vous qui en parlez sur cette radio, parce que personne d'autre ne veut en parler.
Vous poser la question. Personne n'en a parlé. Vous n'avez eu aucune
écho. Je n'ai eu aucune réponse. J'ai eu un petit article dans Famille Chrétienne. Mm-hmm. J'ai eu un très bel article de Judith Cabot dans La Nef.
Ah, ouais. En plus, article. Judith, c'est quelqu'un qui a... Alors, elle c'est pas votre... ça n'est pas votre destinée, c'est encore ouais. autre chose, mais l'histoire de Judith Cabot, c'est une histoire magnifique. Admirable.
Magnifique.
C'est une histoire vraiment incroyablement émouvante. Les Balcons du Ciel, qu'elle a écrit, est un livre ouais. splendide qu'il faut
Et
absolument
sinon,
lire.
Et sinon, j'ai envoyé mon livre à toutes les personnes qui m'avaient dit, le prochain hein, que vous écrivez, vous me l'envoyez, je vous fais passer à ma télé, à ma radio.
C'est ça. Mais celui-là, non.
Eh ben, celui-là, non.
Ouais. Alors, donc, les
tout
réactions...
le monde m'a dit que c'est à cause du titre.
Hein. Oui.
Enfin, tous ceux qui m'ont refusé m'ont dit que c'est à cause du titre. Et j'ai eu aussi autre genre de réaction. C'était dans une kermesse, parce que je vends des poupées dans des kermesses, et puis je mets mes livres à côté. Quelqu'un est arrivé, il a mis le doigt sur mon nom, Mariette Ali. Il a dit, avec ce nom-là, je n'achèterai pas. Mais sa femme me l'a acheté.
Alors ça va.
J'ai fait une belle dédicace. Je lui ai dit que je m'appelais Marie.
Mais, bon, je vais vous faire un aveu. Quand j'ai reçu le livre, je l'ai lu, je me suis précipité dessus.
Oui.
J'ai compris à la deuxième page que je m'étais trompé dans mes raisons pour me précipiter dessus.
Oui.
Mais pour moi, ce livre-là, le titre, je me suis dit, tiens, enfin, un juif ou une juive qui se décide à ouvrir le dossier du révisionnisme. Alors on va voir ce qu'elle a à dire.
C'est pas vrai.
Évidemment, à la deuxième page, j'ai compris tout de suite que j'avais fait fausse route, ouais. mais j'étais empoigné par le livre et...
Ouais.
Et voilà notre ami Daniel Amiche qui fait son entrée.
Bonsoir, charmant invité, Serge. Bonsoir, Lucien. Oui, bonsoir, Victoria.
Bonsoir, Serge.
Bonne année à tous. Hein.
Bonne année.
Il arrive prime sautier, gay.
Voilà,
tout,
et elle est
un peu grossi, peut-être.
Enfin, non, pas du tout. Ah bon, comme un premier mercredi du millénaire.
Mais nous, il suffit couper les cheveux.
Voilà,
c'est ça.
Bon, alors, pardon, de vous interrompre pour ces mondanités, mais je voulais vous dire simplement que quand j'ai dit à Daniel tout à l'heure que vous veniez, il m'a dit qu'il avait adoré votre livre, qu'il était passionné, etc. qu'il serait content de vous rencontrer. Alors, je l'ai invité.
Oui.
Bien.
Vous parliez de
révisionnisme.
Moi, c'était à propos du titre.
Voilà.
Alors, je sais qu'on a beau ne pas être cultivé, on connaît la différence entre le passé et le présent. Donc, mon titre n'est pas « Lettre aux Juifs qui croient avoir été persécutés », c'est « Lettre aux Juifs qui se croient toujours persécutés
oui,
actuellement ».
On ne reconnaît que ce qu'on a envie de reconnaître.
Et qui le croit tellement que ça devient insupportable et les gens redeviennent antisémites à cause de ça.
Oui, je ne sais pas si... Ça, c'est une question que je voulais aborder tout à l'heure. La
ouais.
question
bah,
du,
c'est une constatation
de la
personnelle
prétendue résurgence de l'antisémitisme. C'est pour ça que ça m'a frappé ce que vous disiez.
Ce n'est pas une résurgence, c'est une exaspération. Les gens en ont marre. Les gens dans mon entourage, moi j'habite des quartiers populaires, je travaille au bureau d'aide sociale avec des gens qui n'ont pas passé l'ENA, quoi. Enfin je sais pas comment dire, des gens simples quoi.
Oui, des gens normaux.
vous croyez que c'est... Oui, enfin bon.
Oui,
ça existe encore des gens
normaux.
Pour
une fois, je suis d'accord avec ça.
Ah, ils sont plus normaux que les gens qui ont fait l'ENA.
Et alors, parmi eux, il y a deux catégories. Il y a les juifs qui me demandent pourquoi, en m'appelant Attali, je mange du jambon. Et il y a les non-juifs qui en ont marre, mais alors marre d'entendre parler tous les jours à la télévision de la Shoah, de la commémoration de ceci, de la commémoration de cela. Et il y a même une dame qui a lu mon livre et qui m'a dit... Non, elle m'a pris mon livre en me disant je vais faire lire ça à une petite camarade de ma fille. Elle a 10 ans Et un jour, dans la cour de récréation, cette petite camarade juive a dit à ma fille, « Lève-toi, donne-moi ta place. » Et la petite fille a dit, « Pourquoi ? Parce que je suis juive. » Alors, si à 10 ans, on éduque encore les gosses comme ça, où va-t-on, quoi ?
Oui, c'est-à-dire, vous savez, c'est la vieille histoire du golem. On fabrique un golem pour faire peur aux autres, et puis le golem, un jour, il vous l'avait tellement bien fabriqué qu'il vous fait peur à vous-même.
Ouais.
Et là, on est exactement dans cette situation-là, je crois. Moi, je m'explique la chose de cette façon-là. On voit bien qu'il y a une espèce de... À force, il y a deux messages qui sont martelés en permanence. Mmh. Ces premiers messages, nous sommes le peuple persécuté, par définition, le peuple martyr. Et deuxième message, ça n'arrivera plus jamais, parce que maintenant, nous avons Israël et nous... Bon. Et on voit très bien qu'il y a cette espèce de d'attitude qui consiste à dire qu'à la moindre incartade, il faut réagir, et donc la réaction est toujours, alors est généralement, totalement disproportionnée à l'action. Oui. Et ça, c'est typique. Quand on fait ça devant des enfants, ils finissent par se mettre dans la tête qu'ils ont plus de droits que n'importe qui, parce qu'ils ont eu plus de souffrance que n'importe qui.
Oui,
le jeu de la souffrance et de la repentance, c'est un jeu extraordinairement dangereux.
Oui. J'avais été très choquée par la réaction du peuple juif le 12 mars 2000, quand le pape a exprimé le désir de repentance. Enfin, je m'exprime pas très bien, j'emploie peut-être pas les mots qu'il faut, mais à l'égard du peuple juif, et le peuple juif avait...
C'est pas mal, mais il faut faire encore un petit effort.
C'est pas assez, c'est pas assez, encore.
Ça.
Alors ça m'avait peiné, mais pour le peuple juif, parce que je me dis, s'ils en sont encore là...
Mais est-ce que ça a un sens, ça? Parce que quand on dit le peuple juif, c'est quand même une façon un peu... C'est très globalisateur, ou c'est très...
Moi je parle des juifs qui pratiquent la religion juive, parce que sinon qu'est-ce que ça veut dire d'autre? Il y a des gens qui me disent que je suis juive parce que je m'appelle Marie Attali, mais je suis baptisée, donc je suis pas juive, je suis catholique.
Oui, mais même les juifs... Deux religions, les Israélites, pratiquants, c'est pas un bloc. Alors, sans jeu de mots, c'est quand même des gens, au milieu de, dans le judaïsme, il y a des gens qui disent, bon, on peut avoir des relations normales avec les chrétiens, on n'est pas forcé de leur demander de se repentir en permanence.
Comme dans toute communauté de foi, il y a de tout le monde. Hein.
Justement, est-ce que vous n'avez pas l'impression qu'on a tendance à globaliser sans arrêt, c'est-à-dire à dire les juifs, ce qui englobe aussi bien les Israélites que les Israéliens,
Moi j'ai l'impression que la France est le pays des étiquettes, qu'il y a les juifs, il y a les ceci, il y a les cela, et moi on me demande toujours ce que je suis, moi je réponds mais moi je suis une femme avec deux bras et par chance deux jambes, et voilà ce que je suis. On peut pas s'empêcher de dire les ceci, les cela.
Mais vous pouvez pas nier que votre expérience personnelle, votre vie, votre parcours personnel alimente votre façon de considérer les événements et de considérer les situations que vous vivez.
Ce qui alimente ma façon de considérer les événements, c'est l'éducation que j'ai reçue de ma mère, qui était catholique. C'est ce que j'ai dit aux gens que j'ai hébergés chez moi. Parce que cet homme que j'ai hébergé, enfin j'ai hébergé trois personnes, j'ai pas le droit, je suis dans un HLM, j'ai pas le droit de faire ça. Mais c'était des gens qui n'avaient plus rien, qui étaient jugés irrécupérables, dont un enfant de 8 ans.
Irrécupérable à 8 ans, c'est quand même assez fort.
Qui m'ont dit, mais jamais, jamais en France, j'aurais imaginé trouver quelqu'un qui m'héberge comme ça. Alors déjà, ça m'a fait de la peine pour la France, et puis j'ai réfléchi, bon, j'ai fait ma cuisine, j'ai attendu. Puis j'ai répondu à cet homme, mais tu sais pourquoi je t'ai accueilli chez moi? C'est parce que j'ai reçu une éducation catholique, c'est tout. Donc voilà, mon histoire, mon hérédité, mes maladies génétiques, tout ça, je fais avec, mais je veux dire... ma vie, elle est catholique, quoi, voilà.
Alors, tout à l'heure, quand on résumait donner la trame, tout à fait, pas la trame, la surface du livre,
oui.
C'est exactement le contraire de la trame, je disais que certains pourraient dire que votre personnage était encore plus fou à la fin qu'au début, puisqu'au début il est fou parce qu'il est obsédé par la terreur du nazisme triomphant. Et fin, il choisit la trappe.
Alors ça, c'est un petit clin d'œil à ma mère à qui j'ai dédié ce livre. qui était une fervente catholique, ce qui faisait dire à tous ses proches, enfin ceux qui n'étaient pas catholiques, qu'elle était folle. Ça rejoint ce qu'on disait tout à l'heure, que quand on dit qu'on est catholique, on se retrouve à l'asile, quoi. J'avais d'ailleurs un ami qui me disait, si Jésus revenait aujourd'hui, il se retrouverait au service psychiatrique d'urgence.
Mais vous savez qu'il y a une parole dans l'Écriture qui le dit, c'est...
La folie de la croix.
Non, c'est dans l'Écriture, le Christ dit que celui qui dit raca à son frère, soit puni de la gêne éternelle. Oui. Donc, raca, c'est fou. C'est-à-dire que il y a en quelque sorte la pression, évidemment la préscience du fait que la folie, traiter quelqu'un de fou, c'est se mettre dans la situation du blasphémateur absolu.
Oui, alors donc comme ma mère s'était retirée, bon, une fois qu'elle était à la retraite, que ses enfants étaient élevés et tout, elle s'était retirée, elle vivait seule, elle n'était pas dans un couvent, mais c'est une vie monacale et de silence et de solitude. Alors tout le monde a dit qu'elle était folle. Alors c'est pour ça que j'ai fait ce petit clin d'œil de Yehudi qui rentre au couvent et le psychiatre en déduit qu'il est complètement...
Il est vraiment toqué, ouais. Ça arrive très souvent, y compris chez les catholiques. Je peux vous dire que combien de fois j'ai entendu des gens dire, dis donc, t'as vu chez les Intel, c'est une véritable catastrophe. La petite, tu sais, celle qui était si jolie, elle est entrée au couvent. Parce
ah oui.
que, évidemment, si on avait dit, tu sais,
si
du monde baudin, alors ça, c'est pas un problème. Là, le bon Dieu peut la prendre, cette jeune personne.
Ouais.
Mais celle qui était si mignonne et qui réussissait si bien ses études et tout, eh ben, elle est rentrée au couvent. Oh là là, c'est dramatique. Les parents doivent être dans un état. Et ça, c'est vraiment une dimension constante chez nous.
Hein, oui,
on entend ça souvent.
Mais moi, je voudrais vous poser une question, si vous permettez.
Bien sûr, oui.
Parce que vous dites que vous vivez, vous avez votre activité professionnelle dans la banlieue parisienne. Enfin, c'est ça, quoi, dans les zones
J'habite dans le 20e arrondissement.
Dans le 20e arrondissement.
À Paris, intramuros.
D'accord. C'est presque la banlieue, hein. Oui et non.
Ça ne lui plaît pas, Marie-Athalie.
Moi, j'aime Paris. J'aime cette ville à la folie et j'habite Paris.
Mais est-ce que, alors, par exemple, le conflit entre Israël et la Palestine aujourd'hui, vous le ressentez sur place, parmi toutes les communautés
que vous
fréquentez ?
Oui, bien sûr, les conversations dans la rue. Alors, je me suis aperçue.
Parce que vous portez un foulard qui est le foulard des Palestiniens.
Alors, je m'en suis aperçue quand on me l'a dit de façon très agressive, parce que c'est un foulard qui coûte 20 francs et qui tient très chaud. J'ai absolument pas les moyens de m'acheter autre chose. Ça m'a même pas traversé l'esprit qu'on allait...
Les Palestiniens non plus, d'ailleurs.
C'est juste un foulard noir et blanc qui tient très chaud. Et alors, évidemment, j'ai eu droit à « Comment peux-tu oser porter ce foulard avec ce qui se passe ?» Alors, évidemment, comme je travaille beaucoup et que je suis pas toujours sur la planète Terre, il a fallu que je revienne. Je dis « Ce qui se passe, ce qui se passe. » « Ah oui, oui, ce qui se passe. » Je dis « Bah écoutez, c'est comme si vous me disiez, en voyant quelqu'un en blue jean, pourquoi tu t'habilles comme un cow-boy ?» Je dis, bon, moi, je porte ça parce que c'est chaud. Ah oui, il y a quelqu'un qui m'a dit, ça t'amuse de porter ça? J'ai dit, non, ça me tient chaud. Alors, je vais essayer de m'en trouver un autre.
Il est joli.
Que tout le monde m'excuse de porter ça. Dès que j'en trouve un autre, pas plus cher que 20 francs.
Il y en a des rouges qui viennent de Jordanie. Voilà, là où,
ah, il paraît que les Jordaniens, c'est.
Rouge et rouge et blanc.
C'est moins méchant, je sais pas, c'est ce qu'on m'a dit.
Alors, comment c'est ressenti par.
Alors, comme dans mon quartier, il y a beaucoup de juifs et beaucoup de musulmans, j'ai des oreilles qui traînent, j'entends les familles juives, enfin les ménagères avec leurs caddies, qui ont peur, qui disent ça va recommencer, c'est horrible et tout, qui pleurent, qui sont très bouleversés. Et puis les petits jeunes qui, comme on dit, tiennent le mur dans la cité, ils en ont absolument, mais alors comme ils disent rien à tirer.
Ils s'en moquent.
Pour eux, c'est toujours la même chose. La vie est toujours pareille. Ils n'ont rien à faire. Pour se distraire, ils font brûler des voitures. Et puis la vie continue. Et ils attendent. Ils ne savent pas ce qu'ils attendent.
Mais vous, ça, c'est quelque chose que vous vivez au quotidien.
C'est ma vie quotidienne.
Mais comment, je ne sais pas comment vous poser la question. C'est un mystère insondable. Pourquoi ne font-ils rien? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui les empêche de...
Je peux pas vous répondre parce que je leur parle très peu, étant donné qu'ils sont de culture musulmane et que je suis une femme. Il m'est très difficile de parler à des jeunes garçons, surtout que j'ai pas une tête. Enfin, il paraît d'après certains que je suis encore bousculable. Alors tout de suite pour eux c'est la pute, ouais. Quoi. Enfin, je m'excuse de m'exprimer si crûment, mais
non, mais c'est vrai. Vous avez l'air d'une très jeune femme.
Alors
très,
pour
très
un femme, pour un jeune musulman, une femme qui est pas trop moche et qui vient parler à un garçon. Elle vient lui faire des avances. Donc, je ne peux pas aller leur parler. Et le seul rapport que j'ai eu, c'est un jour, un grand frère m'a arraché des mains une petite fille dont je m'occupais parce qu'elle était tombée, elle pleurait. Et j'ai dit, et la fille hurlait en disant « Marie, Marie, Marie ». Et j'ai dit « C'est pas grave, Nantene, à demain ». Et le grand frère a dit « Non, à jamais ». Bon, ensuite, je me suis fait agressée verbalement pendant un certain nombre de mois, jusqu'à ce que j'héberge ces gens qui, enfin, grâce à eux, je peux, comme je disais, traverser la cité sans gilet pare-balles, ce qui est très agréable, surtout quand il fait chaud. Ouais. Il fait chaud puisque les voitures flambent.
Mais en fait, vous venez de répondre à ma question, parce que oui. le véritable problème, c'est un problème de civilisation.
C'est un problème de civilisation. Culture, ils oui. ne comprennent pas. Il n'y a pas de dialogue possible, ils ne comprennent pas. Je peux me faire comprendre par l'intermédiaire d'un homme, parce qu'un homme, il a le droit de parler à un autre homme. Mais moi, c'est même pas la peine d'y penser, je ne peux pas leur parler. C'est impossible, je peux parler
aux... Ce sont des gens, pardon, mais c'est important, je crois que ce que vous dites est très très important, parce que vous parlez de gens dont on nous dit, dans les journaux, à la radio, les hommes politiques, tout le monde nous dit, ce sont des Français comme les autres. Ils sont nés en France, ils ont des papiers français, ils sont français comme les autres. Or, ils ne sont pas français comme les autres, puisqu'ils n'acceptent pas, tout simplement, les bases mêmes de la société française, qui sont des relations normales entre les hommes et les femmes, enfin, des relations d'égalité.
Je ne pense pas que ce soit ça qu'ils n'acceptent pas. C'est, pour moi, personnellement, ce n'est pas une question de couleur et de tout ça, c'est une question d'éducation et donc de culture religieuse. Ils ont une culture musulmane, moi j'ai une culture chrétienne, ce n'est pas la même. Moi j'ai beaucoup de compassion. Je ne sais pas si l'islam fait une grande part à la compassion dans... Enfin, je ne sais pas si je le sais, je suis assez bien passée pour le savoir. La compassion est un sentiment de faible pour eux. Donc moi, ils me prennent pour un pigeon, parce que j'ai de la compassion, parce que je me suis occupée des petits-enfants. Je suis ce qu'on appelle un pigeon. Puis ensuite, bon, j'ai hébergé des gens... qui n'étaient pas tout à fait français, donc ils ont pu un petit peu s'identifier à ces gens que j'ai hébergés, qui étaient considérés comme irrécupérables, qui étaient à la rue, enfin vraiment, les services sociaux leur proposaient la DAS pour le gamin et une mort certaine de désespoir pour les parents, quoi.
J'aime bien ce que vous dites sur la compassion. Puisque peut-être que l'analyse qu'on peut faire du conflit israélo-palestinien, en fait, hein, c'est l'absence de compassion d'un côté comme de l'autre. Parce que ce sont deux cultures religieuses, que ce soit le judaïsme ou que ce soit l'islam, qui sont des religions du talion. Hein, c'est-à-dire, si tu m'en tues un, je t'en tue deux.
Ouais, bon. C'est vrai.
Et on voit aujourd'hui se développer, avec quelle atrocité, avec quelle horreur, cette haine mutuelle qui vient de deux religions. Bon, je vais dire une chose abominable, hein, mais c'est des religions qui ne sont pas abouties. C'est des religions qui ne sont pas allées jusqu'au bout de ce qu'est une véritable religion. Or, le seul moyen possible d'opérer la paix dans la région, comme la paix qui a vu naître le sauveur, c'est effectivement de christianiser, c'est que le christianisme, la civilisation chrétienne, la culture chrétienne passe chez ces gens-là. Tant que ça ne passera pas, malheureusement, il est à craindre que les événements qu'on déplore continueront à se développer.
Alors, je suis beaucoup trop jeune pour trouver une solution au problème d'Israël, mais je ne vois pas de solution à part prier. Je vois pas de solution.
Vous connaissez cette très belle histoire du très très vieux juif qui est sur le point de mourir et l'archange Gabriel lui apparaît et lui dit: écoute, tu as été parfaitement pieux pendant toute ta vie, donc tu as droit de faire un vœu et il sera exaucé. Un vœu de ton vivant, il sera exaucé. Alors le vieux juif dit: écoutez, moi c'est vrai, j'ai épousé une femme qui était ravissante. Et puis, maintenant, j'ai 90 ans, elle en a 90 aussi, et j'aimerais bien avoir pour elle, comme ça, encore une fois, une dernière fois, une flambée de passion. Non, pardon, je raconte mal l'histoire. Et puis, voilà, je suis un vieux sioniste, et je voudrais la paix au Moyen-Orient. Voilà, je voudrais la paix au Moyen-Orient. Alors, le gars lui dit la paix au Moyen-Orient, Gabriel lui dit la paix au Moyen-Orient, je sais pas ce que c'est, je comprends pas, explique-moi. Alors, il lui sort une carte, il dit voilà, là c'est le Liban, là c'est les territoires, là c'est la Cisjordanie, la bande de Gaza, là c'est Israël, et alors je voudrais la paix entre tout le monde. Alors, Gabriel lui dit non, écoute, je suis un archange, mais enfin, il y a quand même des limites à mon pouvoir, t'as pas un autre truc? Alors, le vieux juif dit bon, ben, si, il y a quand même une chose, c'est voilà, ma femme, j'aimerais bien avoir une flambée de passion une dernière fois pour elle. Alors, ce que vous voyez, ça, c'est dans mes cordes. Alors, fais voir la photo de ta femme. Regarde la photo, il fait, fais voir la carte encore une fois. Voilà, donc c'est pour vous dire, il ne faut pas être vexé de ne pas pouvoir régler le problème.
Non, je disais ça pour continuer en disant que souvent, je dis à mes enfants, quand ils se disputent, arrêtez de faire l'intifada dans l'appartement. Parce que c'est vrai que quand on est à plusieurs, on est nombreux. Bon, c'est un 5 pièces, on est nombreux, parce que j'ai hébergé du monde et que j'ai 4 enfants. Alors, c'est pas tous les jours facile quand on partage un petit territoire à plusieurs. Il faut beaucoup de compassion, beaucoup de patience, beaucoup d'écoute.
Oui, mais il y a quand même une chose. La compassion, je sais bien, c'est vrai que vous avez raison, c'est certainement la clé, mais c'est aussi un formidable piège.
Oui,
c'est un piège. Parce que, par exemple, en France, en ce moment, nous, on est pris complètement au piège de notre civilisation et de notre culture, qui est la culture et la civilisation, qui sont la culture et la civilisation de la compassion.
Ah non, là, je suis pas d'accord.
Et quand...
Je suis pas d'accord.
Et quand on
pourquoi
nous dit, je termine.
Pourquoi vous dites ça, oui. Ouais.
Je termine. Eh bien, parce que on nous explique, par exemple, que il est tout à fait normal que les étrangers, de tout poil et de toute origine, viennent en France, parce qu'en France, ils vont trouver des conditions de vie qu'ils n'ont pas chez eux, et donc il faut qu'on les reçoive, parce que par devoir de compassion et d'amour fraternel,
on doit les recevoir. Non, ça, c'est pas de la compassion, c'est de la compassion déviée, c'est de la compassion galvaudée, c'est de la compassion laïque.
Oui, mais c'est là-dessus
c'est
pour
la compassion
quoi.
Des gens qui ont assassiné des prêtres et des guillotinés des sœurs, etc. Ça, voilà, la compassion républicaine, moi...
Comme c'est joli, comme j'aime.
C'est une phrase que je peux même pas dire, ça n'existe pas, la compassion, oui. Compassion et république. Enfin, je veux dire, je suis pas... on va encore dire que je suis je sais pas quoi. J'ai du mal à parler parce que des fois, je dis des choses qui viennent du cœur et... Il faut pas prendre ça pour de la politique, quoi. Je veux dire, la compassion, c'est chrétien. C'est pas laïque, français, droit de l'homme et tout ce qui s'ensuit, non.
Mais voilà. Vous êtes bien d'accord sur le fait que, justement, il y a cette espèce de dévoiement.
C'est un dévoiement.
Cette espèce de... C'est la charité dévoyée.
La charité profanée, moi.
Profanée, voilà, c'est ça.
Charité profanée. Ouais. C'est le titre d'un livre.
D'un très beau livre.
C'est pas de moi, ouais.
Un très, très beau livre. De...
Jean Borella.
Borella, voilà. Alors, décidément, ce soir, je suis pas bon sur les auteurs.
Mais ça doit être la vache folle, ça, vous...
Oui, vous croyez que c'est ça aussi. Ouais. On m'avait dit que j'étais vache, mais on m'avait jamais dit que j'étais folle.
Mais le poisson cru, c'est pas meilleur, hein, Serge.
Oui, surtout quand c'est toi qui invite, c'est ça que tu dis. Est-ce qu'il y a des messages que vous souhaiteriez, des questions que vous souhaiteriez poser à...
Non, mais il y a quelqu'un qui nous envoie... Enfin, une auditrice qui envoie toutes, qui vous transmet toutes ses félicitations... Nous envoie une citation de Yehudi Menuhin. C'est dans le violon du siècle, cassette sur la vie de Yehudi Menuhin, il y a un discours à la Knesset où il dit « Vous avez souffert, mais à force de vous accaparer la souffrance, vous finirez par vous faire détester. »
Oui.
D'abord, on ne dit pas Yehudi Menuhin, on dit sœur Yehudi Menuhin.
Tu connais l'histoire quand il se présente au bureau, au comptoir pour prendre l'avion. Alors, on dit, l'hôtesse lui dit, comment vous appelez-vous, monsieur? Elle dit, Yehudi Menuhin. La fille le regarde, elle dit, moi, Yehudi merde.
Voilà. Bon, mon Dieu, mon Dieu.
Écoute, on fait ce qu'on peut.
Enfin, oui. Bon, c'est le début de l'année. Oui.
Alors, grand merci à Serge de Beckett d'avoir invité cette jeune femme dont j'aimerais qu'il rappelât le nom
le titre du livre, l'éditeur. Oui,
j'embrasse cette jeune femme et c'est signé un catholique traditionnaliste fidèle de Saint-Nicolas.
C'est bien. Non, le livre est vraiment merveilleux. C'est un beau livre, beau livre, très émouvant, très bouleversant. Ça, j'insiste là-dessus. Il s'appelle donc « Lettre aux Juifs qui se croient persécutés ». Et il est paru aux éditions de Paris.
C'est qui se croit persécuté ou qui se croit toujours persécuté?
Lettre aux Juifs qui se croient persécutés.
Il n'y a, voilà. a pas toujours.
Et l'éditeur?
C'est paru aux éditions de Paris.
Éditions de Paris.
Éditions de Paris.
Et mon nom?
Et le prix?
Marie Attali, pardon.
Et le prix?
Absolument. Alors là, je ne rentre pas dans ces... Oh, pour ce qu'il vaut, il n'est pas cher. Vraiment, ça ne paie pas le plaisir de le lire. Le bonheur de le lire.
On le trouve, on
peut le commander. Alors, il y a des gens qui n'osent pas le commander quand ils habitent un petit village en province, mais allez-y.
Il est envoyé sous pli discret.
Oui, c'est parce qu'ils n'osent pas dire le titre dans le magasin si jamais il y a un voisin qui entend qu'il commande ça.
Vous devriez le sortir avec une couverture
neutre.
Lettre ouverte au... mais vous, je plaisante pas. Écoutez, un auditeur de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais, bravo pour le livre de Marie Attali. Je l'ai lu et je l'ai fait lire à de nombreuses personnes, mais ma bibliothèque paroissiale a refusé de l'acheter.
Oui, bien sûr.
Voilà, c'est extraordinaire. Une bibliothèque paroissiale qui refuse d'acheter un livre.
Non, c'est pas vraiment extraordinaire.
Non, c'est. Tu vois,
c'est oui, oui, j'ai. C'est bon, la ça, FNAC a refusé. Enfin, bon, je passe.
Vous savez, ça durera pas aussi longtemps que les impôts. Hein.
Et là, il y a quand ça changera. Là, j'ai une critique d'une auditrice qui dit c'est très charmant, mais enfin, si les chrétiens qui se massacrent depuis 1000 ans faisaient de la compassion envers les autres, ça se saurait. Le christianisme n'a pas empêché la guerre, vous voyez, 14-18.
Oui, mais ça, justement, alors c'est bah, ça. Alors voilà, on est en plein dans le thème de la repentance, qui a été vraiment, je crois, mal comprise de beaucoup de catholiques. Hein. C'est pas parce que des chrétiens ou des baptisés chrétiens s'entretuent, comme c'est vrai qu'on s'est entretués depuis plus de 1000 ans, 2000 ans, que le christianisme est intrinsèquement mauvais. Oui. C'est que ceux qui se disent chrétiens n'ont peut-être pas eu une existence de chrétien. Alors tout le message que le pape a essayé de marteler pendant toute cette année jubilaire sur la repentance, il ne s'agissait pas de, comment dire, de regretter tout ce que le christianisme avait fait de bien et de beau. Mm-hmm. Les cathédrales, la charité, les enfants trouvés, les missions, enfin, toutes sortes de choses qui sont absolument extraordinaires, et qu'aucune autre religion au monde, enfin, je ne veux pas faire de l'impérialisme catholique, mais qu'aucune autre religion au monde ne peut comparer. Où sont les cathédrales, enfin, où ça n'existe pas. Bon, ça n'existe pas. Mais simplement, je pense que le message était le suivant, c'était de faire une espèce de retour en arrière, à la fois pour soi, pour purifier l'âme, c'était la condition d'entrée dans l'année du jubilaire. Alors, ça a été mal compris, on s'est dit, oui, c'est toujours nous. Mais c'est vrai, le pape lui-même le reconnaît, c'est toujours les catholiques qui regrettent, les autres ne regrettent pas. Parce que le catholicisme, c'est de la religion aboutie. C'est une religion absolument indépassable. Si les autres religions, elles, sont absolument sûre d'elle et dominatrice, que ce soit l'islam ou le judaïsme, que lui n'est pas impérialiste par nature, mais enfin l'islamisme l'est, c'est à cause de ça, c'est parce que ce sont des religions, encore une fois, pré-chrétiennes. Elles sont pré-chrétiennes d'inspiration et de fondation, et elles sont... C'est la loi du talion. Ah voilà, ça c'est pas chrétien.
Oui, je crois qu'il y a une autre dimension dans... Enfin, dans ce que dit cette auditrice, c'est une auditrice, c'est ça qui a envoyé le dernier message.
Oui.
Parce que c'est quand même assez injuste, je crois, de réclamer des chrétiens, uniquement des chrétiens, qui soient sans arrêt radicalement fidèles à leur foi, à leur credo et à leur décalogue. Parce que les autres, apparemment, ont le droit de faire ce qu'ils veulent. Écoutez, je prends un exemple.
Serge, moi je trouve ça...
En ce moment, dans le monde entier, des milliers de gens, tous les jours, qui sont égorgés, torturés, massacrés par des islamistes. On dit bien par des islamistes, parce que si on dit des musulmans, on est très vilains. Mais alors, on nous dit, mais moyennant quoi, l'islam est une religion de tolérance. On entend ça à longueur de journée. Hein. Mais quand un prêtre se livre à des cochonneries, on nous dit, ah ben vous voyez, hein, ils sont beaux vos curés. Quand un type qui va communier le dimanche couche avec sa bonne, on dit, ah ben dis donc, si c'est ça être catholique, alors c'est pas difficile. Quand un banquier catholique refuse un prêt à un pauvre type, on dit, bah, quel salaud, il se prétend catholique. Donc, nous les catholiques, on serait obligés de vivre d'une façon, enfin comme des saints. Alors c'est vrai que normalement, on
ça.
Doit tous tendre
c'est à ça qu'on est appelé.
Mais malheureusement, en ce qui me concerne, pour l'instant, c'est raté complètement.
Faut pas désespérer.
Mais les autres, on leur demande rien. C'est-à-dire que quand un musulman se contente de dire, mais vous savez, moi, je suis pas partisan d'égorger les infidèles, on dit, ben vous voyez, hein, c'est quand même formidable. L'imam de la mosquée de Trifouille-les-Oies, il est pas partisan d'égorger les infidèles. C'est leur foutre une bonne branlée, ça, à la rigueur, il est pas contre. Peut-être quelques coups de fouet, mais les égorger, il est contre. Il est pas d'accord du tout. Alors oui, donc c'est bien la preuve que l'islam est une religion de tolérance. Est-ce que vous imaginez le pape disant « Je ne suis pas partisan de brûler les gens qui ne sont pas catholiques. » Alors dis donc, on n'aurait pas fini d'en entendre parler. Ça, voilà, tout le problème est là. C'est-à-dire que nous, on est obligés d'être sans arrêt meilleurs que les autres.
Mais voilà.
C'est vrai que...
Mais je trouve que c'est un bon défi quand même, non hein? C'est mieux ce défi dans ce sens-là que dans l'autre. Hein?
C'est oui, un peu facile aussi, parce que les autres sont tellement mauvais que...
C'est tellement facile de dire... j'aime pas la religion, je dis ce que j'entends autour de moi, hein. J'aime pas la religion catholique, parce que tel catholique a fait ci, tel catholique a fait ça.
Ça tout le temps.
Mais regardez l'évangile, et puis zut, quoi. qu'on arrête de nous parler d'un tel et un tel. Il suffit de lire l'Évangile.
Alors, on a parlé des réactions autour de votre livre. Oui. Mais on a parlé pratiquement que des réactions négatives. Or, je sais par le courrier que j'ai reçu quand j'ai fait un papier
Une fois que les gens ont lu le livre, mais il faut qu'ils parviennent à le lire. C'est-à-dire qu'ils passent par-dessus l'obstacle de...
De la distribution, de la crainte, du titre,
du respect humain, de beaucoup de choses.
Alors il y a eu des personnes d'origine juive qui m'ont acheté le livre. Il y en a une, c'était dans une kermesse parce que en province, pour gagner ma vie, je vends des poupées de chiffon que je fabrique. Et j'ai eu l'idée un jour de mettre mes livres à côté. Vendre quelques livres en même temps que les poupées. Il y a d'ailleurs une dame dans un petit village de Bourgogne qui m'a dit « L'humour de votre livre va bien avec l'humour de vos pantins. Vous faites bien de les vendre ensemble. » Et il y a une dame d'origine juive qui a éclaté en sanglots devant le titre parce qu'elle croyait que c'était du révisionnisme. Alors je lui ai expliqué. Elle l'a acheté en m'embrassant.
Il n'y a pas que les gens comme moi qui pensent de bêtises.
Donc en général, oui, il y a une réaction soit de chagrin intense, soit d'agressivité. Et pour ceux qui le lisent, je dois reconnaître qu'ensuite, ils m'écrivent, ils viennent me serrer la main. Enfin, moi, je me sens un peu... Je leur dis, c'est trop. Moi, j'ai juste écrit un livre, quoi. J'ai fait ce que j'ai pu.
Ça amène quand même une question. Une question qui va peut-être vous paraître un peu bizarre, mais ce livre, il vient totalement de vous, ou est-ce que vous avez l'impression qu'à un certain moment, on vous a tenu la plume? C'est un livre... C'est une mauvaise question à poser, mais tant pis, elle est partie. Donc, si vous ne voulez pas répondre, ne répondez pas.
Si, je peux... Je ne sais pas si on a le droit de parler de ces choses-là. On touche à quelque chose d'un petit peu indicible. Mais je dois dire que j'ai écrit ce livre au chevet de ma mère qui était mourante, qu'elle m'a demandé de l'écrire. Et que j'étais à côté d'elle, elle était en train de mourir, et que c'est à son chevet que j'ai retrouvé la foi que j'avais perdue. Alors, en cela, c'est peut-être un petit peu une autobiographie, puisque j'étais pas parano, juive, etc. J'avais simplement perdu la foi, comme la plupart de mes contemporains, par lassitude, par dégoût, parce que j'avais pas creusé assez loin, etc. Donc ma mère mourante m'a redonné la foi qu'elle m'avait donnée dans mon éducation. C'est juste des petits aides-mémoires. Elle parlait très peu. Elle était paralysée entièrement dans son lit. Alors j'ai écrit ce livre. Et puis ensuite, comme elle souffrait beaucoup, on l'a mise dans une unité de soins palliatifs. Et j'ai continué d'écrire en me disant, dès que j'ai fini, je vais la voir, je lui lis. Parce qu'elle voulait absolument savoir comment ça finissait. Alors je termine ma dernière page, je la tape, je l'imprime. Je me dis, je prends le téléphone, j'appelle maman. Je lui dis, j'arrive, je te lis mes dernières pages. À ce moment-là, le téléphone sonne. Et c'était le directeur de l'unité de soins palliatifs. Il m'a dit, venez, c'est le moment. Alors, j'ai pas eu le temps de lui lire, mais je suppose que là-haut, ils ont des bibliothèques.
Oui, certainement.
Qui acceptent mon livre.
Oui, voilà, ils sont plus intelligents que chez nous, probablement.
J'espère.
Encore une question. Oui. Quand vous parlez, on sent qu'il y a... Vous êtes catholique en action, si j'ose dire, c'est-à-dire vous vivez votre engagement, votre foi complètement.
Oui, mais sans vous dire, souvent... à part ici.
Oui, c'est clair.
Pour des raisons que je pourrais vous expliquer aussi.
Mais vous parlez beaucoup de la prière.
Oui.
Et c'est quand même assez rare, ça, c'est assez exceptionnel, les gens qui prient beaucoup et qui en parlent surtout. Ça vous paraît vraiment... Est-ce que vous faites une différence d'importance entre la vie, l'action catholique, si j'ose dire, le fait de vivre.
Alors je vais vous répondre par un exemple. Je m'occupe en ce moment, si j'ai hébergé des gens chez moi, c'est dans l'esprit d'une association qui m'a elle-même hébergé il y a quelques années, qui s'appelle HMI, Humainement et Matériellement Impossible. Ce qui est curieux, c'est que le président qui a fondé cette association était complètement athée. N'empêche qu'il a bien dit humainement et matériellement impossible. C'est-à-dire qu'il y a des situations où le seul recours est la foi et la prière. C'est pas moi qui l'ai inventé, hein. Je fais que dire quelque chose qui est évident. Je veux dire, la situation où sont ces gens que j'ai reçus chez moi, il n'y avait pas de solution sociale, il n'y avait pas de solution, il n'y avait aucune autre solution que la foi, l'espérance et la charité. Seulement moi, je leur ai pas dit bonjour les enfants, je suis catholique, parce que sinon ils ne seraient même pas venus chez moi. Je les ai hébergés pendant un an, je les ai soignés. Vous savez, je suis une maman, hein, il suffit de faire comme avec les enfants, avec ses enfants. Puis au bout d'un an, il y en a un qui m'a dit, mais pourquoi t'es comme ça? D'où tu sors tous les trucs que tu nous dis, là, c'est super et tout. Alors là, je lui ai dit, au bout d'un an, maintenant qu'il m'aimait bien et qu'il était en confiance, je lui ai dit, ben, c'est dans l'Évangile. Puis le petit garçon de 8 ans, il m'a dit, ah, c'est quoi l'Évangile? C'est quoi la Sainte Vierge Marie? Alors je lui ai répondu. Puis un jour, c'est vrai qu'on était dans une situation très très difficile et le petit gamin, il avait peur, il était mal. Je lui dis, ben prie. Alors il commence, je vous salue, oh, puis il s'embrouillait. Je lui dis, mais non, mais tu fais comme si c'était ta maman du ciel, parce qu'il a pas de maman, ce gamin. Je lui dis, bon, t'as pas de maman sur terre, t'as une maman au ciel. Alors tu lui parles comme si c'était ta maman. Alors il était là, bon, Sainte Vierge Marie, il faut faire quelque chose, hein, parce que... Voilà. Ouais. Je crois qu'il y a des situations où aucun recours humain n'est possible.
Mais cette prière à la maman du ciel, c'est une chose. Bon, mais est-ce que pour autant vous accordez de l'importance aux prières officielles? Je veux dire, est-ce que le chapelet vous paraît, par exemple, une prière
Alors ça,
c'est personnel.
C'est personnel.
C'est intime.
C'est personnel. Moi, je ne conseille pas aux autres de faire ce que je fais. Et ce que je fais, je leur dis pas. Ça les regarde pas. Ça me regarde moi et Dieu. Je veux dire, mais c'est vrai que orienter son cœur, c'est comme si on était. C'est ce que j'expliquais à une des personnes, qui était vraiment mal avant. Je lui dis, c'est comme si notre âme est un miroir. Alors, si on tourne le miroir vers les ténèbres, il reflète les ténèbres. Si tu tournes le miroir vers la lumière, il reflète la lumière. C'est juste une question d'orientation. Mmh. Alors, tu pries dans la langue que tu veux, le Dieu que tu veux. Tu fais comme tu peux. Moi, je te dis que je prie comme ça. Ça marche. Alors, essaye. Mmh. Et comme ça a marché, ben, il continue.
Et le petit garçon en question, vous l'avez revu
Il est toujours chez moi. Parce qu'en fait, c'est une situation qui se reproduit souvent dans notre société. C'est-à-dire que des parents se retrouvent dans l'impossibilité physique, psychologique, financière de s'occuper de leur enfant. À ce moment-là, ce que leur propose notre République française, droit de l'homme et patati et patata, c'est de mettre l'enfant à la DAS et ils disent aux parents, maintenant vous cherchez un appartement et quand vous aurez trouvé un appartement et un travail, on vous rendra votre enfant. Ça veut dire que l'enfant, il est à la DAS à vie et que le parent, il déprime, c'est fini pour lui, quoi. C'est la fin. C'est-à-dire que l'homme à qui c'est arrivé m'a dit, je suis allé chez l'assistante sociale, j'étais cul-de-jatte, je suis sorti, j'étais manchot. Mmh. Alors je lui dis, bah, écoute, viens chez moi. Avec son petit gamin et puis un autre. Alors donc j'ai repris l'idée de cette association, bien que le président ait laissé tomber. Et je pousse pas du tout les gens à prier ni à faire des chapelets. Je les tourne vers la beauté. Ce sont en général les gens que j'héberge, ce sont des artistes qui n'exercent plus leur art parce qu'ils sont en rupture sociale totale et que ben moi si j'ai pas de papier et un crayon, je peux pas écrire un livre. Un musicien, si on lui a volé tous ses instruments de musique, ce qui est arrivé à un de ceux que j'ai aidé, enfin bon, j'ai juste ouvert ma porte, quoi. On lui a tout volé, cambriolé sa maison, plus de femmes, plus d'enfants. Enfin, il y a des situations où on perd tout dans la vie. Et alors, s'il n'y a pas quelqu'un qui vous aide un petit peu, ben on sombre, surtout si on vous prend votre enfant, quoi. Je crois que moi j'ai 4 enfants. On m'a proposé également un jour, je suis allée voir un service social. J'ai dit voilà, j'étais à l'époque mariée avec un islamiste qui était dangereux pour moi, pas pour les enfants parce que c'était un très bon père. Je suis allée voir les services sociaux, j'ai dit trouvez-moi vite un appartement, il faut que je parte, je suis en danger. Alors ils m'ont fait la même réponse. Madame, nous allons vous placer dans un foyer d'hébergement pour femmes. Vos enfants iront à la DAS. De là, vous chercherez un travail, un appartement, et ensuite, on vous rendra vos enfants. Mmh. Alors, ce jour-là, je me suis dit, je ne sais pas si je vais m'en sortir, mais le jour où je m'en sors, le premier parent qui se trouve dans la même situation que moi, eh ben, je ferai ce que personne n'a fait pour moi.
Cette association dont vous avez repris l'esprit, elle existe toujours, elle est active, vous vous en occupez ou...
Il faudrait que je fasse moi-même une association parce que le président de l'association, comme je vous l'ai dit, est complètement athée. Il s'est tourné, je l'aime beaucoup, c'est un être admirable de courage et de... Mais comme tous les gens qui sont athées, il est très proche de Dieu, seulement il s'en rend pas compte. Enfin bref.
Mais comme vous disiez, le nom même de son association, c'est la preuve
qu'il... Oui, c'est... c'est vraiment. En plus, c'est un homme qui me dit qu'il ne sait pas parler avec le cœur. Je lui dis non, mais si tu veux, je t'enregistre et je te repasse la bande. Hein. Enfin, bref. Ouais. Donc lui, il a pris une tournure un peu plus axée sur la musique. Il a même changé. HMI, ça veut plus dire ce que ça voulait dire au départ. Alors moi, j'aimerais, mais je sais pas du tout comment on fait légalement. Je suis sûre que tous les impôts vont me tomber dessus. Enfin, je suis un peu sceptique sur la possibilité de faire vraiment une association. Toujours est-il que j'ai hébergé des gens chez moi. Le capitaine a quitté le navire. Et ben, je continue. Et puis je vis, ben. En vendant mes livres, alors si vous voulez bien ne pas les prêter et les acheter.
Accessoirement, si quelqu'un peut vous aider à peut vous donner des conseils pour cette association.
Voilà, si quelqu'un peut me donner des conseils, alors je prends des contacts dans les milieux catholiques, hein, parce que dans les milieux laïques, l'aide sociale, tout ça, j'ai compris, je suis retraitée de l'administration. On m'a gentiment proposé la retraite. Après 15 ans d'administration, les mères de familles nombreuses peuvent se mettre à la retraite.
C'est formidable.
Donc j'ai une petite retraite qui paye mon loyer.
Si
mais...
j'avais su, j'aurais été maire de famille nombreuse et fonctionnaire. En fait.
Alors j'ai une petite retraite qui paye mon loyer, mais j'ai beau parler de l'évangile, ça nourrit pas. Ça nourrit spirituellement, il faut manger.
Les oiseaux du ciel...
Alors je fabrique des pantins, un autre fabrique ce qu'il peut, enfin toujours des choses artistiques, de la beauté quoi.
Serge Franck vient de montrer trois doigts qui ne sont pas les trois doigts du salut des serbes, mais ça veut dire qu'il n'y a plus que trois minutes avant la fin de la partie.
Ah,
moi, ce que je propose,
c'est
qu'on continue de trois minutes, et puis si vous le voulez bien, enfin si tu veux bien, c'est qu'on reste encore ensemble pour un bon quart d'heure, une bonne vingtaine de minutes pour après. Ce sont mes étrennes, Serge.
Comme tu
me prends beaucoup de temps de ton émission aujourd'hui, je t'en donne de la.
Mais c'est un beau cadeau, ça m'évite de me conduire en voleur.
Juste, je dirais une chose, parce que j'ai reçu pas mal de messages, oui, on n'est pas toujours compris. Hein.
Ça, c'est sur le
Amish. Oui, ça c'est pas grave, ça me fait un peu de peine, mais pas de peine pour moi, ça fait de la peine pour le locuteur. Alors un monsieur ou une dame, je sais pas écrit, je pense à un monsieur. Hein. Les trois religions du livre, écoutez bien, sont porteuses de massacres et de haine. Il faut être nationaliste, mais en aucun cas chrétien. C'est antinomique. Le catholicisme mâle du Moyen Âge est un vieux souvenir. La virilité de l'esprit aujourd'hui et l'esprit révolutionnaire sont incompatibles avec les foutaises chrétiennes. Taisez-vous, monsieur Amish. Zig Heil. Voilà. On y est. Alors, je dirais à cet aimable auditeur que il n'y a pas trois religions du livre. Il y a deux religions du livre.
Hein.
Oui. L'islam et le judaïsme sont des religions du livre. Le christianisme, c'est la religion de l'incarnation. Ce qui n'a rien à voir. Pour le reste, il a le droit d'avoir cette opinion.
Qu'est-ce qu'il dit sur le Moyen-Âge ?
Que c'était un catholicisme mâle. C'est un discours qu'on a beaucoup entendu dans les années 30 jusqu'aux années 40. Ah,
mâle, voilà, notamment dans mâle. L'adoration, l'amour de la Sainte Vierge, c'est...
Oui, c'était mal. C'est mal. Bon, non, tout. Alors d'autres aussi, hein. Bon, c'est marrant. Enfin,
oui,
bon.
Vous êtes là prise directement à partie. Quel lieu précis après 19h où il n'y a pas de livraison, ça me paraît exagéré. Alors ça, je dirais à cet auditeur qu'il peut m'appeler, je lui donnerai des adresses.
Oui, c'est le...
J'émets des réserves sur vos récits de ce soir. Je travaille pour l'aide sociale à l'enfance. Et ce que vous racontez me paraît aberrant.
Ah, bien sûr que c'est aberrant, mais ça m'est arrivé.
Et puis, on va terminer sur un très beau compliment. Cette première partie, on reprend dans quelques minutes. Le témoignage de Marie Attali est très touchant, très émouvant. Elle me fait penser à la philosophe Simone Weil.
Ah bah alors ça, c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire.
Voilà.
Mais enfin, elle est morte d'épuisement, alors je vais essayer de ne pas en faire autant.
Essayez d'éviter, pas tout de suite en tout cas.
Et puis je redonne, on nous la demande beaucoup, le nom du livre. Ça s'appelle « Lettre aux Juifs qui se croient persécutés ». C'est aux éditions de Paris et ça coûte
79
francs.
Alors, mais où est-ce qu'on peut le commander
en vente précis.
Pratiquement.
Pour les éditions de Paris, on peut leur commander, on leur écrit.
Oui, sinon la librairie Duquesne,
Duquesne Diffusion, 27 avenue Duquesne, librairie France Livre, rue du Petit Pont. Enfin, je pense qu'on a toutes ces librairies, on le trouve.
Oui.
Voilà.
À tout de suite.
La francophonie. « Ici Radio Courtoisie, la radio libre du pays réel et de la francophonie, programme national à Paris sur 95,6 MHz, à Caen sur 100,6, à Chartres sur 104,5, à Cherbourg sur 87,8, au Havre sur 101,1, au Mans sur 98,8, pour toute la France, l'Europe et l'Afrique du Nord sur le bouquet satellite TPS et pour le monde entier sur le site internet tv-radio.com. Vous écoutez le libre journal de Serge de Bekech, dirigé en seconde partie par Daniel Amiche avec l'assistance de Jacqueline Levenbruck. Émission diffusée en direct mercredi 3 janvier 2001 de 18h à 21h, en différé jeudi 4 dans la nuit de 2h à 5h et dans la matinée de 7h30 à 10h30. Ce libre journal est réalisé par Franck. N'oubliez pas que Radio Courtoisie est une radio culturelle associative. Afin de sauvegarder une indépendance absolue, Radio Courtoisie refuse toute ressource publicitaire. Radio Courtoisie ne vit que grâce à ses auditeurs. Aidez-nous à demeurer libres, adhérez à notre association. Pour cette année, la cotisation minimum est de 250 francs. Elle comprend l'abonnement annuel au courrier de Radio Courtoisie. Envoyez votre chèque à Radio Courtoisie, 61 boulevard Murat, 75 016 Paris. Vous pouvez intervenir au cours de cette émission par téléphone au 01 46 51 00 85 ou par télécopieur au 01 46 51 21 82.
Ah bah Daniel, tu as la parole, c'est ton émission maintenant.
Vous êtes chez vous, Serge. Non, continuez, parce que j'ai encore beaucoup de messages. Puis ça me ferait plaisir aussi qu'on continue un peu à parler avec Marie.
Je voulais juste répondre à nouveau un tout petit peu à cette personne qui s'occupe de l'aide sociale à l'enfance. Je suis vraiment désolée si je l'ai choquée. Bien sûr que les assistantes sociales font tout ce qu'elles peuvent, mais elles sont obligées d'obéir à un règlement.
Tout à fait.
Moi aussi, quand j'étais au bureau d'aide sociale, on m'a dit un jour, c'est le directeur qui m'a dit, mais ne faites pas de sentiments, appliquez le règlement. Et bon, bah, le règlement, la personne qui a le meilleur cœur au monde, elle n'y peut rien si c'est son travail. C'est pour ça que j'ai quitté l'aide sociale pour pouvoir faire de l'aide sociale.
Mais il faut dire aussi que c'est un peu comme les infirmières qui travaillent dans les unités de soins palliatifs, ou d'ailleurs dans les services très durs, si ou les infirmières, ou les filles, ce qu'on appelait les filles de salle, je ne sais pas comment ça paye maintenant, ou les médecins, ce sont des gens, s'ils n'ont pas le bouclier du règlement, ils ne peuvent pas tenir psychologiquement, ils s'effondrent.
Oui, exactement. C'est d'ailleurs pour ça que je n'ai pas tenu dans l'aide sociale, parce que je voulais aider les gens, je ne pouvais pas.
Souffrance.
Et c'était insupportable.
Donc on comprend, c'est clair que. Bon, il faut bien comprendre que dans cette émission, il y a des choses qui sont dites parfois sur un ton un petit peu rapide, comme ça enlevé, on dit des choses méchantes. Bon, ça tient de la blague, on attaque les fonctionnaires. Mais évidemment, tous les fonctionnaires sont pas. Je dis les policiers, s'ils ont le temps, s'ils sont pas en train d'aller boire leur pastis. Mais c'est de la blague tout ça. C'est évident que je pense pas que tous les policiers passent leur temps à boire du pastis. Je pense pas que tous les fonctionnaires sont des paresseux. Je ne pense pas que tous les enseignants sont des pourrisseurs d'enfants. Je pense pas ça.
Je pense que la courtoisie n'interdit pas l'humour.
Mais j'espère, je voudrais bien que ça n'interdit. Mais apparemment, en ce moment, il y a une forte déperdition d'humour dans le. Je suis obligé de le dire, hein, dans l'auditorat. Je suis étonné de voir à quel point, depuis quelque temps, les messages deviennent agressifs et souvent très désagréables. Alors, je sais que les messages ne représentent qu'une infime partie de l'auditorat. Et que peut-être que on a plus tendance à continuer à appeler pour grognonner.
C'est vrai que j'ai dû blesser cette personne qui est assistante sociale bien malencontreusement, mais parce qu'effectivement, ça m'est arrivé comme ça.
On blesse tout le temps quelqu'un.
Et ce garçon qui s'est retrouvé à la rue avec son fils, on lui a proposé, on n'avait rien d'autre à lui proposer. Le règlement, on n'avait rien d'autre à lui proposer.
Moi, ce soir, j'ai blessé un nationaliste anti-chrétien, mais je ne regrette pas.
Une auditrice nous donne l'adresse des éditions de Paris.
Ah, très bien, oui, bon. Éditions de Paris.
C'est 7 rue de la Comète, Paris.
Non, non.
Ah non, alors c'est pas une bonne adresse.
C'était, voilà. Ben alors,
on nous dit que c'est le,
si on nous enduit avec de l'erreur, alors ça va plus.
C'était également l'éditeur de l'abbé Wartel, ajouté trop. Ben,
ça, c'est possible, mais alors.
Oui, édition de Paris, à ne pas confondre avec les éditions de Paris, c'est édition de Paris.
Alors, en tout cas, je précise une chose. On en parlait hors micro avec Marie Attali. Comme elle ne peut pas donner son adresse personnelle pour des raisons que la conversation qu'on a eue éclaire assez bien, je propose la chose suivante, c'est que si vous avez envie d'écrire à Marie Attali, soit pour lui parler de ce qu'elle fait, de son livre, soit pour lui parler de son association qu'elle envisage de créer, soit pour lui parler de tous les sujets qui vous paraissent dignes d'être évoqués avec elle, vous pouvez lui écrire... Alors, au Libre Journal, vous écrivez simplement Marie Attali, au bon soin du Libre Journal, 4 place Franz Liszt, Franz comme France et Liszt comme Liszt. J'aime bien donner des explications pour que ça soit bien clair. 75 010 Paris. C'est une adresse dans laquelle il y a deux Z. F-R-A-N-Z.
Voilà.
L-I-S-Z-T. On voilà. A les moyens. On s'est offert deux Z. Il faut dire que comme c'est une lettre qui est assez peu utilisée, elle n'est pas chère. Il n'y a pas beaucoup de demandes sur le Z en France. Ah, naturellement, si on était en Pologne, ça
serait... Mais elle rapporte beaucoup de points, non ?
Ah, oui, 10. Elle fait 10 points au Scrabble. Donc, avec France Lys, si on acceptait le nom propre, on ferait 20 points. Là. Rien qu'avec deux lettres. Et en plus, si on pose sur un triple, enfin bref.
Est-ce qu'on pourrait pousser Marie un peu plus dans ses retranchements ? Pour lui demander de donner un peu plus de précision, ou pour les auditeurs qui viennent juste d'accrocher notre station, l'association, qu'est-ce que vous voulez faire ? Qu'est-ce que vous voulez faire exactement ?
Redites donc HMI, ce que ça voulait dire.
HMI, humainement et matériellement impossible. Alors, ce que je veux faire, c'est un gros problème. Ouais, je vais vous dire franchement la situation. Je me retrouve donc dans cet appartement avec des gens que j'ai hébergés avec l'aide de quelqu'un qui s'en va, parce que, bon... Peu importe les raisons. J'ai une santé très fragile. C'est pour ça que je suis à la retraite de l'administration. Et j'ai tout simplement du mal à faire manger tout ce petit monde. Alors, pour faire manger tout ce petit monde, j'écris. Ça nourrit pas son homme, encore moins sa femme et toute la ribambelle. Donc, je fabrique des pantins qui sont des... Pas des poupées de chiffon, sont des pantins.
C'est mignon comme tout, là, vous en avez apporté un. C'est...
On a apporté une, mais tant et qu'on n'a pas arrêté les
portes, comme c'est un pantin, il est en pantalon, alors j'ai pensé que c'était un, mais.
Non, c'est Petroni, c'est ma représentante.
Ah, pardon, alors si même les pantins se mettent à porter des pantalons, alors là. C'est...
Bah oui, mais elle avait froid aux jambes et j'arrivais pas à lui tricoter des collants.
Petroni, elle s'appelle.
Petroni, oui. Alors donc chaque pantin est différent, chaque pantin porte un prénom, et les gens qui achètent un pantin, ben ils m'aident à remplir le frigo, tout simplement. Voilà. Et cette fois-ci, je me ferai pas livrer. Mais le problème, c'est que j'ai pas encore trouvé de boutique pour déposer mes pantins. Je les vends par le bouche à oreille, mais encore une fois, si je donne mon numéro de téléphone, les gens vont venir m'assassiner. Parce qu'avant, j'ai écrit sur l'islam, hein, c'est pour ça, c'est pas pour ce que j'ai écrit maintenant. Mais avant, j'ai écrit sur l'islam.
Vous aimez bien les sujets tranquilles, quoi. Les trucs,
Bah, c'est pas de ma faute si ça m'est arrivé dans ma vie, quoi. J'essaye d'avoir une petite vie tranquille, j'ai essayé et tout, mais il n'y a rien à faire. Il y a un mec qui sonne à ma porte avec un garçon. Qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je lui dis d'aller ailleurs. Enfin bon, donc, je peux pas donner mon numéro de téléphone, ce qui fait que pour diffuser mes pantins, j'ai du mal. Alors, si quelqu'un a une idée.
Bon, voilà. Alors on cherche
cette idée et on demande aux éditeurs
si vous avez une boutique
d'écrire donc Marie Attali au bon soin du Libre Journal, oui. 4 place Franz Liszt, Paris
75 010,
Paris 10e.
Voilà.
Oui, parce que vous parliez de créer une association. Moi, je veux pas créer une association. Je veux simplement finir le travail que j'ai commencé. Il y a un enfant de 8 ans chez moi.
Mais si vous créez cette association, si cette association se crée avec vous, ça peut déboucher sur autre chose. C'est-à-dire, je pense que ça peut déboucher sur une prise de conscience, par exemple.
Oui, tout à fait. Mais le problème, c'est pour ça que je vous parlais de ma santé, c'est que le problème, c'est que je ne sais pas combien de temps je vais tenir physiquement. Je veux dire, assumer cette charge d'avoir chez soi du monde contre toute l'égalité, contre tout l'entourage qui me dit « Mais pourquoi tu as hébergé ces pauvres types ?» Bon, ces pauvres types, maintenant, ils gagnent leur vie, ils sont bien et tout. Je veux dire, c'est dur, c'est lourd à porter. Moi, j'ai plus la force. Comme je vous ai dit, j'ai pas envie de faire comme Simone Veil. J'ai pas envie de mourir d'épuisement. J'ai 4 enfants qui ont besoin de moi. Parce que leur père...
Ils ont quels âges?
Ils ont 20 ans, 18 ans, 15 ans et 14 ans.
C'est quand même incroyable. Hein.
Alors celle qui a 20 ans a réussi à se trouver une piole, elle travaille, elle fait des études. Celle qui a 18 ans, elle a réussi à rentrer à Hippocagne et Henri IV, je ne sais pas comment elle a fait. Enfin, c'est vraiment les miracles de l'esprit.
C'est pas bête, par exemple.
C'est le miracle de l'esprit, parce que vraiment, bon. Les autres, ça va, mais bon, comme tous les enfants, ils ont besoin d'une maman et... Et moi, j'ai perdu ma mère à 38 ans. J'aurais bien aimé qu'elle dure plus longtemps. Alors,
comment ils vivent tout ça, vos enfants?
Je me demande comment ils font pour être aussi équilibrés. Parce que avec tout ce qu'ils ont vécu, parce qu'ils ont une mère pas tout à fait ordinaire, faut bien le dire, je les admire beaucoup.
Ouais, ça doit être réciproque, quand même.
Ils exagèrent, parce qu'en fait, moi, je fais rien que de très normal. Non, mais mettez-vous à ma place. Il y a quelqu'un... Vous rencontrez quelqu'un qui a tout perdu et vous pouvez faire quelque chose pour lui. Qu'est-ce que vous allez faire? Va sonner chez le voisin? Non, c'est pas possible. Enfin, je sais pas, j'ai pas été élevée comme ça, quoi. Alors, je me suis retrouvée par hasard, parce que maintenant je parle de cette association, mais c'est par hasard que je me suis retrouvée avec autant de gens qui ont besoin de moi. Et maintenant, si je craque, tout le monde craque. Donc, je suis obligée d'être en bonne santé. Je peux pas travailler. Alors, je fais des pantins. Parce que le pantin, c'est la seule chose que j'arrive à faire, même si je suis complètement malade, mais 42 fièvres, j'en ai fait une. Je l'ai appelée Olive avec un grand sourire. La pantine, elle a un grand sourire. J'avais 42 fièvres quand je l'ai fait.
Parce que si vous retravaillez, vous perdez votre traite de l'administration.
Ah, mais je ne peux pas travailler, monsieur, parce que je tombe dans les pommes. Là, vous voyez, je tiens debout parce que je sais qu'il faut que je tienne debout jusqu'à telle heure, quoi. Après, je vais rentrer chez moi, je vais m'écrouler. J'ai une santé invalidée. Invalidée. Je suis pas président de la République, je vais pas publier mon état de santé. Mais je veux dire, c'est très invalidant. Surtout socialement, parce que les gens ont du mal à comprendre que quelqu'un soit toujours malade. Quand quelqu'un est toujours malade, l'entourage attend qu'il meure, quoi, qu'il y ait une fin, quelque chose, ou qu'il guérisse. Mais peu de gens peuvent imaginer que la science, qu'ils adorent tant, soit incapable de venir à bout d'une maladie. Pour eux, je vais voir le médecin, c'est magique, je suis guérie. Et quand je leur dis que c'est pas possible, alors là, effectivement, il y a peut-être une prise de conscience à provoquer chez certaines personnes.
Alors, quelques messages quand même, parce que je ne voudrais pas que vous croyez... À travers ce que j'ai dit tout à l'heure, ce n'était pas du tout à vous que ça s'adressait. Les messages coruscants ne sont pas à votre endroit. Ils sont en général à mon endroit, moi. La preuve, très touché par tout ce que dit Marie Attali, enfin une vraie catholique qui vit sa foi.
Oh, je ne suis pas la seule, il y en a d'autres, il ne faut pas exagérer.
Ça fait plaisir d'en entendre de temps en temps, dans cette émission aussi, on en entend dans d'autres émissions de Radio Courtoisie.
Ah oui,
quand je suis parti d'Algérie avec ma fille dans le ventre, la formule est jolie, dit une auditrice, j'ai bénéficié dès mon arrivée en France après mon accouchement d'une douzaine d'années des services de la DAS où ma fille a été placée dans un pensionnat et quand j'ai pu la reprendre, il n'y a eu aucun problème. Je suis reconnaissante à la DAS de m'avoir tant aidée.
Alors, bien sûr, il y a des cas où c'est merveilleux, mais moi, si on m'avait enlevé mes 4 enfants, j'aurais été désespérée, c'est là ma faiblesse, mais je dois reconnaître que j'ai des faiblesses et que me séparer de mes enfants, ça m'aurait fait très très mal. Alors qu'il y avait d'autres
solutions. Je crois que ça enlève tout ressort surtout, parce que après on a.
Dans le cas de quelqu'un qui est mourant et à qui, enfin c'est pas moi, j'étais pas mourante, hein, mais je pense à un cas particulier, quelqu'un qui était mourant. À mon avis, si on lui avait enlevé son enfant, il mourrait dans les 3 mois qui suivaient, quoi. Mourir de chagrin, ça existe. Hein.
Bien sûr. Tous mes remerciements pour cette émission et à la jeune femme invitée, Marie Attali. Et puis alors, un message qui est codé, moi je connais le code, alors je comprends, mais je vais le lire quand même, puis vous direz quelque chose si vous en avez envie. Une auditrice qui a très bien connu Madame Monique André-Gillois lui adresse ses compliments et pense que Monsieur André-Gillois aurait été très heureuse d'entendre ses propos.
Quelqu'un qui a connu ma mère?
Ben oui, apparemment.
Oui.
Voilà. Ah ben, je suis très heureuse, bonjour.
Voilà.
C'est incroyable, la radio, hein. C'est vraiment quelque chose.
J'ai mal lu et pense que Madame André Gillois aurait été très heureuse d'entendre ses propos. Ben, elle les entend probablement.
Ben oui.
Alors ça, c'est aussi une question. Elle les entend, mais moi, je me demande toujours si ça les intéresse encore vraiment ce qu'on dit. Ça leur paraît pas un petit peu quand même subalterne?
Si ça intéresse le bon Dieu, ça doit aussi intéresser les âmes qui sont dans la béatitude, certainement. Enfin, ils ont quelque chose de plus intéressant, mais je pense qu'il y a une communication, oui, certainement.
Je répondrai juste avec la voix d'une maman, parce que je suis une maman. Moi, mes enfants, ça m'intéressera toujours. Hein.
Oui.
Morte ou vivante, ça m'intéressera toujours.
Une auditrice demande combien vendez-vous vos pantins et le faites-vous par correspondance?
Oh, si bah pour l'instant, chose, c'est...
On peut passer par chez Serge de Berquet, parce que vous ne voulez pas donner votre adresse.
On va faire des photos des pantins. Puis
oui, bah j'ai des, je peux envoyer... Oui, les gens écrivent. Voilà. On va bien trouver une boutique où je peux les mettre en dépôt.
Ils
mais,
sont
en
dépôt-vente,
ouais. Et puis, quelqu'un vous conseille pour créer une association, le plus simple est d'acheter aux éditions Delmas une documentation pour 200 francs qui donne tous les renseignements. Voilà. Allez,
commencez par sortir
c'est
du
lancé, fric. Voilà.
200
c'est
francs.
Très gentil. Ouais. Si quelqu'un veut m'offrir cette brochure...
Dites pas ça, vous allez en recevoir 6.
Ah non, alors il faut s'organiser autrement. Je ne suis pas très organisée. Hein. Mais pour moi, 200 francs, c'est un frigidaire plein. C'est, je fonctionne en réfrigérateur, excusez-moi.
C'est votre unité de compte.
Oui, voilà. Et effectivement, un pantin, combien je les vends, ça dépend s'il y en a des plus ou moins travaillés. Et ça remplit plus ou moins le réfrigérateur.
Alors, les auditeurs ne sont pas très actifs pour noter, donc je redonne le titre de votre livre, « Lettre aux Juifs qui se croient persécutés ». C'est édité aux éditions de Paris, ça coûte 79 francs, et si on peut l'acheter chez Duquesne facilement.
Oui. Alors,
et on peut le commander chez Serge de Beketch, enfin,
ah oui, aussi, si
au Libre Journal de Serge de Beketch, 4 places France Liszt dans le 10e.
Sinon, n'importe quel vrai libraire est censé pouvoir.
Mais vous avez raison, si on n'ose pas trop dire le titre.
Bah alors, allez en file indienne à la FNAC, ça leur fera les pieds, parce qu'ils me refusent tous mes bouquins. Alors,
Ah là, ce serait très bien, alors oui.
Tout, chez moi,
un seul par jour, on va les avoir à l'usure, un par jour, pendant un an, ils vont finir par le prendre.
Et chez moi, vous pouvez le commander, ça ne choquera personne. simplement, j'insiste sur le fait que ça n'est pas ce que je croyais au début.
Ah oui, c'est...
Voilà, non, il faut pas non plus.
Il y a trop pris sur le marchandise pour toi.
Non, c'est pas, il y a pas trop pris. Au contraire, on est piégé par un.
On est toujours piégé par les apparences.
Exactement. Et après, on lit ce livre, on est pris par le livre, et on est bien content que ça n'ait pas été ce qu'on croyait que c'était finalement. Bon, alors, que demande le peuple? D'autres messages?
Non, ça c'est autre chose. Puisqu'on nous parle de l'ANPE qui a été victime d'un attentat à la bombe, et qu'en pense Serge de Beketch, ça n'a pas de rapport.
Je suis contre.
Contre quoi?
La bombe à l'ANPE, je suis contre tout, de toute façon. L'ANPE, en plus, c'est un truc qui est très intéressant, l'ANPE, parce que c'est fabriqué pour. C'est l'association nationale. Tiens, voilà une association.
L'Agence
nationale pour l'emploi. Donc imaginez que ces gens-là fassent leur boulot, vraiment. Hein. Les gens de l'ANPE font vraiment leur boulot. Mmh. La sanction immédiate, enfin à la fin, la sanction, c'est
la disparition
le chômage. Comme il n'y a plus de gens qui n'ont pas d'emploi. Puisque
les employés de l'ANPE vont être au chômage.
Ils seront au chômage. Donc il faudra créer une ANPE pour les employés de l'ANPE qui n'auront pas trouvé de boulot. Et quand on aura trouvé du boulot, ceux de la deuxième ANPE...
Oui, mais pour créer une ANPE pour ceux qui... Il faudra d'autres employés d'une autre ANPE.
Voilà.
Ça,
on n'en finira jamais.
C'est le gala au profit des organisateurs de gala.
Voilà, c'est tout.
C'est tout.
Bon.
On sourit, Marie, on ne fait que sourire. Parce qu'il faut s'étendre, mais c'est vrai que votre expérience est quand même...
Non, mais ce qui est merveilleux aussi chez Marie-Attali, c'est qu'elle a traversé tout ça en gardant, un peu comme un brise-glace. Un brise-glace qui aurait le sourire, si on me permet cette image un peu aventureuse. C'est quelqu'un qui est gay. Alors, normalement, quelqu'un qui a vécu ce que vous avez vécu et qui vit ce que vous vivez devrait être accablé de misère et de tristesse.
Mais non, parce que quand on a traversé tout ça, voilà. On est tellement content de l'avoir traversé.
Alors, vous avancez là-dedans comme une petite flamme joyeuse. C'est le plus beau de tout, je trouve. C'est miraculeux.
C'est la foi.
Voilà. C'est comme ça que ça s'appelle.
Oui.
Combien valent
Donc, vous avez peut-être une maladie, mais c'est pas une maladie de foi. C'est ça.
Combien valent les petits pantins? On nous repose la question.
Alors, le pantin le moins cher...
C'est un frigo.
...coûte 250 francs.
Ah, c'est un frigo.
Ça peut être un peu plus. Je suis obligée d'avouer que ça représente une journée de travail.
Voilà.
Donc, j'ai commencé par les ventes 200 francs. 200 francs pour une journée de travail, j'y arrivais pas.
Je faire des ménages plutôt que des pantins.
Oui, alors je me suis dit, je vais mettre 250 francs en disant que c'est quand même mieux qu'une Barbie.
Alors il faut dire, attendez, je vais le décrire, ouais, permettez-moi.
Et ça c'est un petit format, c'est le petit format le moins cher.
Ils font 40 cm de haut.
Non, les petits font 50 cm, les grands font 60 cm.
Mes doigts ont allongé alors. Alors, ils sont habillés. Celui-là, il a une très belle...
Celle-là, s'il vous plaît.
Celle-là,
c'est une femme, elle s'appelle Pétronille.
Elle s'appelle Pétronille. Pétronille
a un joli sourire, elle a un nez mutin. Elle a des cheveux verts, ça, qu'est-ce que vous voulez, faut sacrifier à la
oui,
mode.
Mais
elle
ça va bien avec le Defolcote.
Un peu punk. Ouais. Elle a un Defolcote.
Alors, ils sont articulés, ce qui voilà. fait qu'on peut les mettre dans toutes les positions qu'on veut. On peut le laver dans une machine à laver. Alors ça, toutes les mamans me bénissent.
Un vrai Defolcote rouge, avec les boutons Defolcote. C'est vrai. Une belle écharpe, comme celle que j'ai perdue.
Mais c'est pas elle qui vous l'a prise.
Non, 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 c'est un peu grand pour elle.
Et des chaussures,
tout ça, c'est très amusant. Elle salue, tiens, pendant que je la...
Alors, il y a différents modèles. Il y a le modèle, il y a des petits rappeurs, il y a des petits blacks. Ah, je sais que ça se dit pas, mais bon, je l'ai fait,
des
moi.
Des petits blacks.
Des petits chinois, des petits... Il y en a plusieurs couleurs. Il y a des roses, des verts, des noirs, des rouges, des jaunes chinois.
Les verts, vous êtes tranquille, ça vous attirera pas d'ennui.
Je pourrais les vendre dans les trucs écolo, peut-être.
Peut-être les écolos, ou alors à Haïti. À part à Haïti. Je veux dire, Haïti, s'il descend, c'est un content d'avoir un pantin vert.
Pétronille avec les cheveux, elle aurait du succès. Tiens, quelqu'un nous demandait si vous étiez diffusé au Canada.
Diffusé au Canada ?
Oui, parce que nous, on est entendu au Canada. On a des auditeurs canadiens.
Écrivez-nous.
On a des
au livre journal, on vous en enverra.
On a même un auditeur hindou, le professeur Shakti, qui nous envoie ses vœux.
Ah oui, pour la question par correspondance, bah oui, bien sûr, je peux les... Ce que je fais en général, quand quelqu'un veut un pantin, j'y vais avec mon sac avec une douzaine de pantins. Je lui montre, je donne rendez-vous à la personne dans un café, chez elle, suivant qu'elle a peur de moi ou pas.
Marchande de pantins à la sauvette.
Et je monte mes pantins, et parce que comme ils sont tous différents, forcément, on a envie de choisir entre plusieurs.
Je veux dire, est-ce que vous devriez avoir une grande gabardine, vous cousez les pantins à l'intérieur, et dans
j'y
le métro,
pensé,
vous ouvrez
oui.
comme ça.
J'y avais pensé, vous les coudes sur moi, puis enfin bon...
Écoutez, j'espère c'est que moi. Beaucoup d'auditeurs vont, sinon acheter vos pantins, du moins lire votre livre, parce que ça, c'est vraiment indispensable. C'est un très beau livre, je répète, et très émouvant. Et
alors, vous
important,
allez,
riche.
Vous pourriez inviter Marie Attali à votre au dîner des lecteurs,
dire,
des abonnés du livre journal.
J'allais dire, Marie Attali, ce que je vous propose, c'est de venir faire, comme ça, si les auditeurs et les abonnés du livre journal qui participeront au dîner traditionnel du Libre Journal qui aura lieu dans quelques semaines pourront voir vos pantins et éventuellement se procurer votre livre, mais j'espère qu'ils n'attendront pas jusque là pour se procurer le livre. Donc vous venez, on vous donnera une petite table, vous ferez asseoir vos pantins. Et moi, je pourrais pas les inviter à dîner parce que on n'a pas les moyens d'inviter une vingtaine de
non mais les pantins se nourrissent exclusivement de parfums, d'odeurs.
Bon, ça
comme
va,
le petit
là,
prince
c'est bien
donc
ça ira comme,
ils respirent avec les cheveux, mais enfin
donc
bon,
on fera une table
je passe
de pantins
les détails parce que sinon on va s'étendre longuement.
Merci beaucoup d'être revenu nous voir. Je rappelle une dernière fois le titre de votre livre, Lettre aux Juifs qui se croient persécutés. C'est paru aux éditions de Paris. Alors, on nous a demandé l'adresse. Je l'ai eu, l'adresse, mais je l'ai déjà reperdue. C'était une boîte postale. Alors, il faut que je la trouve.
On avait dit qu'il valait mieux pas la donner, que c'était plus facile de passer. De faire
les libraires,
chez
alors, du Caine ou au Libre Journal.
Passons par du Caine ou par le Libre.
Voilà. Du Caine, c'est
édition
plus
de Paris.
Simple.
Et ça vaut 79 francs.
Au revoir, Pétronille.
Voilà, eh bien, mon cher Daniel, je m'en vais vous laisser.
Eh bien, ce fut bien commandes. Agréable. Je vous remercie beaucoup de m'avoir fait partager cette première partie d'émission.
Cette
première émission du
millénaire.
Du millénaire, du siècle, de l'année, enfin, du mois. Ça, il faut peut-être le laisser parce qu'il faut peut-être que. Annoncez-le alors, peut-être, Serge, non ?
Oui, c'est une rupture de ton, mais j'ai appris que. On a tous appris la mort de Jacques Laurent. Et. Dominique Perrin, qui est la femme de Michel Perrin, et la mère de Rémi Perrin, l'éditeur bien connu, m'envoie un petit fax pour me faire savoir et faire savoir aux auditeurs que les obsèques de Jacques Laurent auront lieu le mardi 9 janvier à 10h30 en l'église Saint-Germain-des-Prés. Voilà. Mardi 9 janvier, 10h30 en l'église Saint-Germain-des-Prés. Je pense que beaucoup d'auditeurs voudront aller saluer un monsieur qui a quand même beaucoup compté dans nos lettres et dans notre vie intellectuelle.
Oui. Hein, la culture française,
pas
la
rien, fraîche. Monsieur Laurent. Voilà. Le métro le plus proche de la place Franz-Liszt, car vous n'avez pas de Rolls. Alors, madame, si vous n'avez pas de Rolls, c'est même pas la peine de venir au Libre-Journal, parce que ça va choquer, vous comprenez. Je sais pas, il y a un métro près de la place
Franz-Liszt. Ah, c'est Cadet, on n'est pas loin de...
Métro,
Cadet,
je ne prends jamais cet engin, moi je... Non, non, alors blague à part, c'est métro Poissonnière. Non, Cadet, c'est loin. Puis Cadet, vous êtes obligé de passer à côté de la du Grand Orient de France. Il faut mieux éviter. Non, non, Poissonnière, c'est très bien. Ou Gare du Nord, à ce moment-là, vous descendez. Et vous avez même la possibilité de prendre l'autobus, le 26, le 43, lequel encore, mon cher Jean. Jean-Sylve, qui est là, vient parfois me voir au journal, qui apporte ses papiers. Voilà, donc métro Poissonnière ou Gare du Nord, voire Gare de l'Est si vous avez l'esprit d'aventure. Merci de votre patience.
Merci Serge.
À la semaine prochaine, que Dieu nous garde.
Eh bien bonsoir aux auditeurs qui nous retrouvent pour cette deuxième partie du Libre Journal de Serge de Bekech. Très émouvante première partie, je dois dire, et très bien. Alors je présente d'abord évidemment tous mes vœux aux auditeurs qui nous font l'amitié de nous retrouver pour cette partie. Et ben, je leur souhaite une bonne année, un bon siècle, un bon millénaire. Je ne sais pas dans quel état on terminera le troisième millénaire. Moi je pense qu'on le terminerait quand même un peu plus mal que le précédent. Mais enfin bon, on va quand même se cramponner pour essayer de tenir le plus longtemps possible. Alors, j'ai réuni autour du micro pour cette deuxième partie de personnes dont une que connaissent bien déjà nos auditeurs, puisqu'il s'agit de Jean-Sylve de Ventavon, qui est écrivain, journaliste, historien surtout, et qui vient nous parler d'un recueil de chroniques d'histoire, chroniques au pluriel d'histoire, qui est publié aux éditions L'Encre. Alors on va en parler dans le détail. Et puis également, j'ai le plaisir de recevoir ce soir Ségolène Depas, qui est ingénieur en développement informatique. Alors ça fait peur tout de suite, ça fait peur, ingénieur en développement informatique, bon. Mais qui est une dame tout à fait charmante et qui vient nous parler d'un logiciel, enfin même d'ailleurs de deux logiciels, qu'elle a développés sous le titre générique Gène Héral. Ça c'est un petit clin d'œil général, c'est-à-dire un logiciel de généalogie et un logiciel d'héraldique. Comment composer des généalogies, en même temps comment faire de très beaux dessins d'héraldique avec, voilà. Alors, on va en parler également. Et puis nous aurons, je pense, également par téléphone Thomas Grimaud, qui est un invité régulier de cette chronique. Et il est vrai que l'année jubilaire se termine. Elle se termine à l'Épiphanie, je crois. Donc le 6 janvier prochain, le Saint-Père va refermer la porte jubilaire. La porte sainte de la basilique. Et Thomas Grimaud, lui, fait une petite chronique sur les persécutions des chrétiens au cours de cette année jubilaire. Parce que pendant le jubilé, la persécution des chrétiens a bien sûr continué. Alors je pense qu'il y a quelques auditeurs qui doivent s'en réjouir, comme celui qui m'avait tout à l'heure envoyé ce charmant petit message. Ben voilà, moi je m'en réjouis pas. Voilà, je m'en réjouis pas. Alors nous allons, si vous voulez bien commencer par notre ami... Franck me fait des signes. Dans une petite minute. Bon alors, nous aurons Thomas Grimaud dans une minute au téléphone. Alors je rappelle que Jean-Sylve de Ventavon vient nous présenter ce soir ses chroniques d'histoire.
C'est ça.
Publiées aux éditions L'Encre. Donc diffusées en toute librairie ou à
toutes
défaut.
Toutes les bonnes librairies.
Ou à défaut aux éditions de L'Encre. Voilà. 12 rue de la Sourdière.
Voilà.
Paris 1er. Alors c'est un ouvrage qui se compose de chroniques que vous avez déjà publié dans différentes publications.
Singulièrement dans Minute. Et dans le Libre Journal.
Le Libre Journal du monsieur qui vient de nous quitter.
Voilà. C'est ça, j'étais collaborateur de Minute durant quelques années et j'avais une chronique qui traitait d'un événement historique qui s'était passé dans la semaine de parution du journal.
Donc c'est-à-dire, on va en gros ça part du 1er janvier si l'on veut, jusqu'au 31 décembre,
exactement.
Et alors beaucoup d'années passent évidemment en revue, puisque bon là c'est le par exemple le 7 janvier 93, le 8 janvier 1463, enfin, etc. Donc c'est tout un travail de mort, c'est un travail de recherche quand même.
C'est un travail de recherche et c'est un travail qui était à la fois assez difficile, puisque comme vous le soulignez, il fallait faire des recherches, mais qui était aussi très très divertissant parce que les sujets que je traitais étaient eux-mêmes très différents. Il y a des scènes de tumultes, de révoltes, de guerres. Il y a des scènes d'amour, il y a des scènes de guerre civile, il y a des rappels de mœurs et de coutumes anciennes. Il y a, enfin, c'est très divers.
Qu'est-ce qui vous a... Est-ce que je peux vous poser une question générale?
Les gens, on se connaît
en général, puisque on vient ce soir, parce qu'on se connaît quand même depuis quelques années. Qu'est-ce qui vous a poussé à vous intéresser à l'histoire de cette manière aussi entière, totale et...
Ben, c'est-à-dire, je me suis toujours, pour ainsi dire, intéressé à l'histoire. Mon grand-père s'y intéressait déjà beaucoup, le père de mon père s'intéressait beaucoup à l'histoire. Et lorsque j'étais enfant, enfin déjà grandet, lorsque j'avais 12-13 ans, je me suis plongé, comme la plupart des garçons de cet âge, dans Alexandre Dumas, dans Paul Féval, et j'en ai tiré un tel délice que, mon Dieu, je me suis posé la question, pourquoi ne pas chercher à approfondir un petit peu toutes ces belles histoires qu'on nous raconte, voir ce qu'il y a de vrai, ce qu'il y a de faux, et puis voilà.
Parce que beaucoup de jeunes, évidemment, à 13-14 ans, lisent Paul Féval ou lisent Dumas, tous ces auteurs, mais enfin, tous ne deviennent pas des historiens.
Non, bah bien sûr, mais alors là...
Heureusement pour vous.
Il y a une destination providentielle, sans doute. Je ne peux pas donner d'autres explications.
Quels sont vos siècles de prédilection? Quelles sont les périodes de l'histoire que vous préférez? Je ne dis pas que vous aimez le mieux, mais sur lesquelles vous préférez travailler. Mais
vous savez, j'ai l'habitude de dire qu'en histoire, je suis généraliste. C'est-à-dire que toutes les époques m'intéressent. Mais j'ai un coup de cœur pour le XVIe siècle, les guerres religieuses... bien entendu, la Révolution française, plus exactement la contre-révolution française, car comme vous le savez sans doute, je me suis spécialisé dans l'histoire des guerres vendéennes et de la chouannerie.
On parlera parce que... Alors, je vais vous interrompre quelques instants, parce que vous parliez de guerre religieuse. Bon, on va parler peut-être avec Thomas Grimaud qui nous rejoint par le miracle du téléphone. Est-ce que Thomas Grimaud est en ligne?
Et c'est miraculeux.
Eh ben, c'est miraculeux. Voilà, c'est le premier miracle de l'année.
Voilà.
Donc vous êtes alors, en quelque sorte le bénéficiaire.
Alors, vous parliez de guerre religieuse et de guerre de Vendée. Eh bien, comme d'habitude dans ma chronique, je vous emmène sur d'autres rivages un petit peu plus lointains que la Vendée. Et là, Daniel, vous ne me demandez pas d'être bref, donc je vais être très long.
Non, je vous demande de ne pas être trop long.
Ah bon, je pensais qu'il y avait de bonnes résolutions de prise pour le début de l'année. Non. Alors, très sérieusement... Juste quelques petites informations. Je vous avais parlé une fois dernièrement de l'évêque auxiliaire de Boma au Congo, dans la République démocratique du Congo, Monseigneur Cyprien. Eh bien, Monseigneur Cyprien a été arrêté ces derniers jours, c'est-à-dire le 28 décembre. Donc, vous voyez, c'est pendant en pleine période festive. Et il a été mis en prison... à la DEMIAP, la DEMIAP étant l'agence militaire d'enquête sur les activités antipatriotiques du RDC. Il est officiellement accusé, on ne sait pas toujours très très bien dans ce pays, mais là il semblerait qu'il soit accusé donc de menées antipatriotiques, et surtout son équipement satellite et son téléphone ont été saisis, bien qu'il ait tous les permis officiels, tamponnés, retamponnés, encore retamponnés, parce que aussi au Congo, il faut tamponner très souvent, et bien qu'il ait toutes les pièces officielles permettant la possession d'un téléphone cellulaire, cela a été pris. Donc, j'en parlais, et c'est arrivé malheureusement. Le 31 décembre... quelques jours après, alors que en France, eh bien, il y avait des grandes fêtes un petit peu partout, qui se sont soldées aussi souvent par des blessures et des destructions. Eh bien là, à Sainte-Lucie, dans les Caraïbes, donc, des jeunes gens sont rentrés pendant une messe à 7h du matin dans une église. Sainte-Lucie, c'est à côté de la Martinique, pour situer. Ils sont entrés, ont jeté des produits inflammables sur l'assistance, c'est-à-dire sur le célébrant, et sur une quinzaine de personnes, et après ont allumé. Ouais, merci. Et on peut dire qu'à leur manière, ils ont voulu faire un feu de Bengale pour fêter la nouvelle année.
Oui. On s'amuse comme on peut, enfin, c'est bien, on a des mœurs tout à fait... c'est bien tout ça.
Alors Sainte-Lucie, c'est quand même à 90% catholique. Hein. Ouais. Et là, il semblerait que, puisque deux personnes ont été arrêtées, je ne vous ai pas dit qu'une sœur est donc décédée immédiatement, et le prêtre célébrant, lui, est dans un état très critique. Il a été brûlé au troisième degré, notamment au visage. Autant dire qu'actuellement, il y a, enfin, on peut prier pour qu'il vive, mais les médecins réservent leur diagnostic. Et puis, une quinzaine ou une douzaine d'autres assistants à la messe ont été blessés. Donc, deux personnes ont été arrêtées. Un type de 20 ans et un type d'une trentaine d'années, et ils ont déclaré être rastafariens. Rastafariens, je ne vous apprends rien, c'est une secte un petit peu particulière, qui est en mémoire ou qui divinise le dernier empereur éthiopien, Haïlé Sélassié. Donc, affaire à suivre malheureusement pour savoir si le prêtre pourra s'en tirer ou non, mais on craint que non.
C'est curieux, parce que Haïlé Sélassié, quand même, était chrétien, même si c'était une religion un peu monophysite, mais enfin, c'était les chrétiens, donc on comprend très bien que les chrétiens évoluaient d'autres chrétiens.
Oui, curieux. Mais vous savez, régulièrement...
Il était copte, je crois.
Oui, une espèce de... C'est très spécial, oui.
Enfin, copte, ça veut pas dire grand-chose, malheureusement, parce que les coptes, en Égypte, par exemple, l'église catholique copte, égyptienne, se dit église copte, et les orthodoxes disent église copte, parce que copte est un mot ancien, d'où vient le nom Égypte. Mm-hmm. Hein, donc copte, c'est malheureusement, ça ne veut pas dire grand-chose. Mais j'ai déjà parlé sur ces ondes d'attaques de fondamentalistes chrétiens, protestants, souvent des méthodistes, qui attaquent à coups de machette ou à coups de kalachnikov, soit des hindous pour les convertir de force au christianisme, soit même d'autres chrétiens. Au nord de l'Indonésie, ces derniers jours, des sectes, parce qu'il y a beaucoup de sectes qui se disent chrétiennes, elles ne le sont pas, hein. Il y a même une secte avec un leader charismatique qui se dit être la réincarnation de Jésus-Christ. Alors là, on voit pas très bien quel rapport il y a avec les mystères de l'Église, mais enfin, vous voyez, donc il y a pas mal aussi de sectes dans le monde qui se disent chrétiennes, et ces derniers jours, au nord de l'Indonésie, des sectes chrétiennes sont allées combattre d'autres sectes chrétiennes. Ça s'est soldé par une quinzaine ou une vingtaine de morts. Ouais. Donc parfois, c'est ça qui est un petit peu difficile à comprendre dans nos pays, mais parfois, des personnes qui se prétendent chrétiennes attaquent à coup de machette ou à coup de kalachnikov. Mmh. C'est encore le grand avantage de l'Église catholique, s'il était besoin de le dire, par rapport aux églises protestantes. C'est que l'Église catholique, il y a une hiérarchie, et on ne peut pas être catholique si on n'est pas dans les hiérarchies d'une certaine manière. Ouais. Bon, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas, chez les protestants, la chose est un petit peu plus simple ou plus compliquée. Il y a 70 000 églises protestantes à travers le monde.
Mon Dieu.
Autre pays dont oui. J'ai encore une fois très souvent parlé, le Soudan, et notamment le Bahr el-Ghazal. Le Bahr el-Ghazal étant cette zone qui va du nord... Ça qui fait la jonction entre le nord-ouest soudanais, donc à dominante musulmane, et le sud à dominante chrétienne, catholique, protestante ou animiste, mais à dominante africaine. Et j'avais parlé une fois dernièrement d'un père, le père Parladé Escobar, qui est espagnol, et qui est au Soudan depuis une dizaine d'années, je crois, grosso modo. Il est surtout à Raqqa, c'est pas très très loin de Niala. Et il avait reçu, l'autre jour, une convocation à un poste de police, au motif que son visa allait expirer au 1er janvier. Bon. Donc, il se rend au poste de police de Raqqa, et il montre que le visa a été donné en l'année 2000, le 21 janvier. Or, les visas au Soudan sont valables pour un an, et non pas pour un an moins 21 jours. Mais... Le brave fonctionnaire n'accepte pas la chose. Moralité expulse de sa mission, alors que le père Escobar est quand même bien connu pour tout le bien qu'il fait, surtout auprès des jeunes. L'expulse de sa mission, et le père Escobar, actuellement, est à Khartoum pour essayer d'avoir une prolongation de visa. Un cas, voilà, de persécution non sanglante, oui. Mais qui est courante, malheureusement, au Soudan.
En matière sanglante, il y a eu ces graves incidents, enfin ces homicides qui se sont passés à la veillée pascale, à la veillée de Noël, veux-je dire, à la nuit de Noël.
Oui, à la veillée de Noël, il y a eu une attaque, effectivement, avec une dizaine de morts, hein, oui. Je crois. Oui, ouais, ça c'est un peu terrible, mais très souvent, les fêtes religieuses donnent prétexte à des attaques de part et d'autre.
Oui.
Enfin, l'Indonésie, puisque vous parliez de l'Indonésie, on vient d'apprendre que ces derniers jours, une chrétienne a été assassinée parce qu'elle refusait de se marier avec un islamiste. Et donc, vous voyez, comme quoi chez certains, le mariage doit être libre. Donc, elle a refusé d'épouser un islamiste, et les gentils islamistes l'ont assassinée en récompense. Ça aussi, ce sont des persécutions courantes, non pas quotidiennes fort heureusement, même si en l'an 2000, on considère qu'il y aura eu au moins 700 ou 800 chrétiens catholiques assassinés à travers le monde. Mais voilà un cas, j'avais parlé du Pakistan, où il y avait eu un problème un petit peu similaire. Parce que ces derniers jours, en Indonésie, toujours au sud-est de Ceram, toujours dans les Moluques, hein, on parle toujours des Moluques, et non pas du Timor, des musulmans islamistes avaient capturé pas mal de personnes dans un village chrétien de Kasiu dont j'ai souvent parlé. Et parmi les chrétiens prisonniers se trouvait donc cette jeune fille qui a refusé d'épouser un islamiste. Il faut savoir, et je terminerai là-dessus, et je prie les oreilles chastes de baisser le poste pendant quelques instants, parce que si elles ne sont pas dans le domaine médical, elles pourraient être heurtées, mais telle est la vérité, donc il faut bien le dire. Ces dernières semaines, plusieurs centaines d'hommes ont été circoncis au rasoir. Je vous passe les détails, mais enfin, en règle générale, il n'y a pas tellement d'anesthésie ni d'antiseptique dans ces coins-là. Et de très nombreuses femmes, toujours dans cette île de Kasiu, ont subi l'ablation du clitoris, ce qui est une tradition chez certains musulmans. Et puis, pour la petite anecdote, et ceux qui ont fait un peu de médecine comprendront tout de suite, eh bien, celle qui saignait, ce qui paraît quand même un tout petit peu normal, eh bien, celles qui saignaient ont dû aller se laver dans la mer.
Voilà,
alors, du sel sur les plaies, ça, c'est encore mieux que tout. Ouais. Voilà, sur ces nouvelles un petit peu tristes, la fin de ma chronique. J'étais assez court, Daniel.
Eh ben, vous avez été très court, je vous remercie. Je vous remercie de votre célérité. Et là, ces informations que vous donnez sont toujours aussi peu encourageantes. Enfin, bon, on continuera à les donner.
Voilà, eh ben, continuez déjà à votre poste. Et vous, chers auditeurs, à écouter et bien sûr, à prendre votre cotisation.
Merci Thomas Grimaud.
Je vous en prie,
Daniel. À bientôt.